Effectivement, il y a le merveilleux petit musée, non pas le petit chaperon rouge, mais le petit musée Jean-Niclou, dans lequel on trouve des objets tout à fait étonnants trouvés par ce personnage autour de rustiques, et en particulier un magnifique minuscule petit phallus d'or que ce personnage a réussi à voir, que je vous conseille beaucoup à voir, et qui est un objet qui semble sorti d'un conte de fées, puisque 2000 ans plus tard, 2000 ans après qu'il ait été perdu par on ne sait qui dans les vignes autour de rustiques, ce tout petit phallus d'or est ici présent, et ce petit phallus d'or nous introduit assez facilement au petit chaperon. Alors, tout le monde a bien connu le petit chaperon rouge depuis qu'on est petit. On a eu beaucoup de versions du petit chaperon rouge et évidemment elle fait partie, les versions que l'on connaît, une des plus célèbres, c'est celle qui est celle de Charles Perrault, qui fait partie des contes de Perrault, bien sûr. Alors pratiquement tout le monde connaît le petit chaperon rouge, on va dire dès qu'on est français, mais dès qu'on est européen, mais aussi américain, mais aussi chinois. Et même quand on regarde les dessins animés de Tex Avery dans toutes les langues du monde, il y a une version, dont je parlerai dans un moment, du petit chaperon rouge. Donc il y a une connaissance extraordinaire du petit chaperon rouge. C'est sans doute un des textes littéraires français les plus connus en France et au monde, assurément. En revanche, on connaît parfois un peu moins Perrault. On sait que ce sont les contes de Perrault. Mais qui est Perrault, c'est pas très évident en général pour le monde. On a souvent une idée un peu précise dès qu'on a fait un peu des études, au moins jusqu'au bac, un personnage appelé Molière, on sait à peu près qu'il est mort sur scène, voilà, un certain nombre de choses, qui s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. On sait quelques trucs sur La Fontaine ou parfois sur Corneille ou Molière, mais Perrault est une sorte de nom pur, hein, comme ça, qui est posé. Et puis parfois on se dit, mais les contes de Perrault, mais alors, est-ce que Perrault n'a pas écrit autre chose? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, Perrault? Qu'est-ce que Perrault a fait de sa peau, à part écrire les contes de Perrault, hein? Véritablement, voilà cette de question. Alors, avant d'aller rencontre du petit chaperon rouge, avant d'aller voir ce conte-là d'un peu près, de le lire précisément, je voudrais dire quelques trucs sur Perrault, hein, pour savoir un petit peu qui est ce personnage qui s'appelle Perrault, Charles Perrault. Alors, Perrault, Charles Perrault, vit pendant le siècle de Louis XIV. C'est un contemporain de Louis XIV, il a très bien connu Louis XIV, il est un homme du pouvoir dans Louis XIV, véritablement un proche pendant longtemps du pouvoir, avec, comme ça arrive quand les pouvoirs sont un peu puissants et très puissants, des moments de disgrâce, véritablement. C'est un homme d'État, hein, un homme lié à l'État. C'est un homme qui a été un contemporain de La Fontaine, de Racine, de Corneille, de Boileau, de La Bruyère, etc., etc. Donc tout ce qu'on appelle les grands classiques français. Il les a connus, il s'est opposé à certains, il les a fréquentés. Il a véritablement été un homme qui a connu tout le monde qui comptait à Paris, dont il n'est guère sorti, entre 1628, année de sa naissance, donc on est sous le règne de Louis XIII, vers le début du règne de Louis XIII, et puis jusqu'en 1703, année de sa mort, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIV. Louis XIV devient très vieux, vous savez, il meurt en 1715, et donc c'est vraiment un écrivain classique français, contemporain des grands classiques français, qui a connu les grands classiques français et qui a été directeur de l'Académie française pendant des années et des années, dans lequel il a joué un rôle très important. C'est lui, par exemple, qui a permis aux académiciens de toucher des jetons parce qu'il fallait les encourager pour faire le dictionnaire. Les académiciens sont toujours un peu paresseux et donc les jetons, ils les touchent toujours. C'est-à-dire en fonction des séances, M. Giscard d'Estaing, qui est académicien, touche son petit jeton, d'accord, qui permet d'avoir un petit peu d'argent quand on s'assied sur le siège de l'Académie française. Sinon, les académiciens n'avançaient absolument pas dans le travail important du dictionnaire. On en reparlera dans quelques instants. Donc, Perrault est un personnage qui vit assez vieux, hein, 1628-1703. Ça fait donc un âge respectable pour le XVIIe siècle. C'est un âge comparable à celui de Corneille, comparable à celui de La Fontaine, c'est-à-dire un âge tout à fait habituel, environ 80 années, dans les gens qui appartiennent à l'élite. Dans ce temps-là, on atteint 80 années, très rarement au-delà. Hein, voilà, 100 ans, c'est le cas de Fontenelle. Mais bon, les gens qui ont résisté quand ils sont petits au XVIIe siècle, qui appartiennent à la bonne société, vivent en gros aussi longtemps que nous, un petit peu moins longtemps. Ils n'ont pas de 5e âge, de 8e âge, il n'y a pas de super EHPAD, etc. à l'époque. Et donc Perrault meurt comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire un jour il fait un petit malaise et crac, il est mort 3 jours après, hein, voilà à peu près. Mais 3 jours avant de mourir, il est encore à l'Académie française. Donc voilà, c'est assez habituel. La Fontaine, c'est pareil, hein, Corneille, c'est pareil. Un jour il fait un malaise et puis il meurt, hein, voilà, c'est extrêmement rapide. Donc c'est le cas de Perrault. Alors Perrault, c'est assez curieux parce que donc il meurt en 1703. Et ce qu'on appelle les contes de Perrault, c'est-à-dire la seule œuvre que quelqu'un, en général, connaît de Perrault, date de 1696. C'est-à-dire, il publie son œuvre, qui fait sa gloire française, mondiale, mais extrêmement vite, cette gloire se répand extrêmement vite, 6 ans avant de mourir. Et avant, rien. Personne ne se souvient en général d'une seule œuvre de Perrault d'avant. Quelques érudits par-ci par-là. Quelques coquins se souviennent parfois qu'il y a une œuvre qui s'appelle « La métamorphose du cul d'iris à nastre ». C'est très joli, etc. On voit à peu près le genre de choses. Voilà. Quelques-uns des érudits savent qu'il a écrit un poème très important dans l'histoire de la littérature française et de l'Europe qui s'appelle « Le siècle de Louis le Grand ». Mais à part quelques érudits, personne ne lit cela. Beaucoup de gens savent qu'il a, enfin beaucoup de gens, parmi les érudits des érudits, qu'il a traduit les fables de Faerne, un auteur italien qui écrivait en latin. Mais bon, voilà, peu de gens connaissent Faerne et peu de gens connaissent la traduction de Faerne, etc. Ceux qui s'intéressent aux anciens, comme moi, collectionnent parfois des éditions de Perrault. Par exemple, là, voilà des lettres de l'Académie, hein, qui datent de 1680, par là. Et donc, il y a un grand nombre de textes de Perrault là-dedans, écrits à des nobles, etc. Un grand nombre de poèmes écrits à la gloire de Louis XIV, pour les protestants, qui s'intéressent à l'histoire du protestantisme. Évidemment, Perrault est un catholique, il a dit tout le mal qu'il fallait penser les protestants à l'époque. Il s'est félicité de la révocation de l'édit de Nantes, vous savez, ça s'appelle l'édit de Fontainebleau. Donc c'est un type qui a écrit beaucoup de choses, qui a joué un très grand rôle, mais tous ces noms que je cite d'œuvres, de textes, en général, personne ne les connaît, sauf les érudits. Et si je vais dans une grande librairie française, par exemple à Toulouse, à Ombre Blanche, et que je cherche dans les rayons, cette librairie où il y a 200 000 livres presque en permanence, de Perrault, je ne trouve que, effectivement, les contes de Perrault, mais alors en plein d'édition. Dans le rayon pour enfants, je le trouve aussi en BD, etc. Mais je le trouve dans le rayon pour adultes, je le trouve en bibliothèque de la Pléiade, je le trouve en édition annotée, etc. Mais je ne trouve de Perrault que les contes de Perrault, et parfois quelques textes annexés dans les éditions comme Folio ou GF, pour donner une petite idée du reste de l'œuvre. Donc c'est un auteur particulier, qui n'est célèbre que par une seule œuvre, et qui est pourtant quelqu'un qui a beaucoup travaillé à écrire. On va décrire un petit peu la vie. Quelques personnes savent peut-être que quand on se promène au Louvre, quand on se promène à Paris, il y a la rue de Rivoli, que le long de la rue de Rivoli, il y a le Louvre, que le long de la rue de Rivoli, il y a une grande colonnade qu'on appelle la colonnade du Louvre, et que, effectivement, et c'est pas le long de la rue de Rivoli, c'est en face de l'église Saint-Germain qui est là, c'est donc une grande colonnade qu'on appelle la colonnade du Louvre en général, mais qui est aussi la colonnade de Perrault. Alors c'est évidemment un Perrault qui est le frère de Perrault. Mais Perrault a joué un rôle, Charles, dans l'œuvre considérable de Claude Perrault, son frère. Alors là, je rentre un petit peu dans la vie de Perrault. Perrault, c'est une famille. Alors au XVIIe siècle, on ne fonctionne jamais seul. En France, comme dans les pays voisins, on fonctionne en famille. C'est-à-dire c'est des groupes de gens qui travaillent ensemble à essayer d'assurer l'ascension sociale de la famille. C'est ainsi la famille de Corneille, la famille de La Fontaine. Alors, lui, il n'a pas de frères et de sœurs, mais c'est toute une famille qui est tout autour, etc. Et la famille Perrault. La famille Perrault, qu'est-ce que c'est? C'est une famille d'avocats, au départ, parisiens, originaires dans la Touraine. Le père et la mère de Perrault ont un grand nombre d'enfants. 4 frères survivent, les filles n'en parlent guère, certains mourront assez jeunes et quelques-unes deviendront moniales. Très bien, il y a 4 frères qui comptent vraiment, il y a Charles Perrault, enfin Pierre Perrault, Claude Perrault, et puis un quatrième qui compte, qui mourra moins, Pierre Perrault, qui meurt assez jeune. Ces frères sont des gens qui appartiennent à la bourgeoisie, c'est les Perrault, qui arrivent donc autour de 1600, 45, 50 pour le plus jeune, c'est-à-dire Charles Perrault, dans la zone où on se dit qu'on va essayer de faire quelque chose de sa vie. À ce moment-là, pour faire quelque chose de sa vie, quand on est un bourgeois, eh bien, il y a une possibilité, c'est le clergé, ils ne vont pas la choisir. Il y a une possibilité, c'est le service du roi sous ses différentes formes. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'armée. Enfin, s'ils rentrent dans l'armée, ce sera des carrières minables. C'est-à-dire qu'ils seront soldats, éventuellement, sous-officiers, mais pour devenir officiers, il faut bien entendu devenir être noble. Ils ne sont pas nobles, et même s'ils avaient leur grand-père, leur père avait acheté une charge de noble, c'est-à-dire de la noblesse de robe, ça ne suffirait pas, donc ces voies sont fermées. Donc, il reste à ce moment-là le reste, c'est-à-dire le droit, éventuellement la science, les affaires, et on a tout à fait intérêt, si on est une famille, et si cette famille entière, et ce type de famille d'avocats, de gens de droit, qui veulent effectivement réussir, travailler ensemble. Ce qu'on va faire les frères Perrault, comme ici dans la région, on va faire les frères Charles Cros, vous savez, qui est originaire de Fabrezan, il y a trois frères qui occupent l'espace au 19e siècle. Et donc, il y en a un qui va être plutôt une sorte d'homme de la finance, il y en a un qui va être un architecte, mais aussi un artiste, etc. Et il y en a un qui va se mettre dans la littérature, c'est Charles Perrault. Entre ces trois frères, il y a des écarts d'âge limités, 2-3 ans, ils vont travailler ensemble, et par exemple, donc, c'est Charles Perrault qui va obtenir, si on peut dire, le marché pour que Claude Perrault fasse la fameuse colonnade du Louvre. Alors pourquoi Charles Perrault va-t-il obtenir le marché? Parce que Charles Perrault est sans doute le plus malin de la bande en termes d'arrivisme. En gros, qu'est-ce qu'il fait? À partir des années 1750-60, il comprend qu'effectivement, eh bien, il est en train de s'installer en France contre l'aristocratie et contre certains mouvements religieux qui vont s'appeler la Compagnie du Saint-Sacrement, contre lesquels Molière va juger, un pouvoir extrêmement organisé qui a été préparé déjà par Henri IV, par Richelieu, par Mazarin. Mazarin a beaucoup de difficultés pendant la période qui s'appelle la Fronde, mais Perrault a l'intelligence de faire le bon choix de ce point de vue-là, c'est-à-dire de se dire « je vais entrer dans l'administration royale en m'appuyant sur quelque chose qui est la culture » et il repère très très vite qu'il y a un personnage qui va compter très fort qui s'appelle Colbert. Alors La Fontaine fait une erreur à ce moment-là, une erreur fatale. Il croit que son protecteur est Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet est le grand surintendant de Mazarin. Quand Louis XIV apprend le pouvoir, il va éliminer Nicolas Fouquet immédiatement. Voilà, il a essayé de le faire exécuter, mais enfin, il ne va pas tout à fait y arriver. En tout cas, il va le faire enfermer pendant des années et des années. Il va finir par mourir du côté de Turin dans un fort, très bien, mais il sera éliminé. En revanche, Colbert va l'emporter et Colbert va être le grand protecteur de Fouquet, de Charles Perrault. Alors, qu'est-ce que c'est que Colbert? Donc, c'est comme Perrault. C'est un homme du milieu du droit. C'est un bourgeois, c'est un homme qui se dit, lui, ses frères, et ensuite ses enfants, la famille entière, c'est toujours des familles, hein, toujours des familles, on va essayer d'ascensionner le paysage, et donc, en famille, mais avec, évidemment, d'autres familles, et par exemple, la famille Perrault, bien entendu. Donc, la famille Perrault, il faut l'imaginer comme une famille qui s'associe à d'autres familles, qui sont des familles de bourgeois, qui se disent, Louis XIV, c'est une chance pour nous, parce que c'est un jeune roi, très intelligent, qui a envie de déquiller une partie de l'ancienne aristocratie qui a fait des manifestations, qui a fait son mai 68. Hein, la Fronde, c'est le mai 68 de l'aristocratie française dans les années 1650. C'est-à-dire, ils font des émeutes, ils font des manifestations, ils crient « libérer Broussel » à un certain moment. Broussel, c'était un parlementaire, etc. C'est une ambiance de ce genre. Donc, c'est le grand désordre, c'est beaucoup plus violent que mai 68. Donc il y a une Fronde dite des princes, une Fronde des parlementaires. Le roi Louis XIV, très jeune à ce moment-là, se retrouve en difficulté, enfermé dans le Louvre, il n'est pas du tout content, etc. Et donc le grand projet de Louis XIV, c'est de culbuter la grande aristocratie. Il va le faire très facilement. Il va les envoyer à l'armée, faire la guerre un peu plus loin, ou il va les mettre à la cour. Ils vont s'occuper à lui verser du vin, à nettoyer les glaces, à s'occuper des querelles de coussinets, etc., etc. Donc ils vont être, devenir des esclaves, hein, véritablement. Et d'autre part, il va réduire, évidemment, les parlementaires, en particulier les parlementaires parisiens, avec grande énergie. Ils sont moyens pour réduire l'aristocratie, les parlementaires et aussi une partie du clergé, c'est de faire monter ce que Saint-Simon, plus tard, le duc de Saint-Simon, qui déteste Louis XIV, a appelé la boue. La boue, c'est des gens comme nous, c'est des bourgeois. C'est des bourgeois, des aristocrates. Des gens éventuellement très compétents, qu'on recrute pour leurs compétences, pour leur servilité aussi, bien entendu. Ils sont absolument dévoués au roi. Et ces gens-là, on les met à la tête des administrations, des services, ainsi qu'il y a Louvois, bien sûr, il y a Colbert, il y en a beaucoup d'autres, les enfants de Colbert, et il y a Perrault, et bien d'autres gens. Donc Perrault va comprendre très vite que pour des gens comme lui, il y a une opportunité. Cette opportunité, ben, il va la trouver. J'ai fait des études de droit, je vais mettre ma plume au service de celui qui est en train de monter, et ils sont très vite que c'est celui-là qui va gagner, c'est Louis XIV. Alors vous savez que Louis XIV descend à Toulouse dans la région pour se marier en 1660. Louis XIV est passé à Carcassonne, il est passé à Rustique, à Trèbes, il est allé jusqu'à Montpellier, etc., à Marseille. Et ensuite, après avoir fait ce grand tour, il est passé ici, enfin bon, à 5 km d'ici. Et ensuite, il est avec toute sa camarilla. Et ensuite, il est reparti se marier en 1660 à l'île des Faisans, vous savez, à la Bidassoa, là-bas, au bord de l'océan Atlantique. Et là, il a fait modifier un petit peu l'église de Saint-Jean, de Saint-Luz, pour pouvoir entrer dans l'église, parce que c'est un peu gênant de ne pas pouvoir entrer, je crois, à cheval. Bon, mais enfin, très bien. Donc, il a fait ce grand tour, et immédiatement, Perrault, vous voyez, qui est assez jeune à ce moment-là, fait évidemment de magnifiques poèmes sur le mariage du roi Louis XIV. Des poèmes qu'admire Mazarin, c'est des poèmes de cour, hein, voilà. Ô grand roi, que vous êtes grand roi, etc., etc. Enfin, voilà, tout cela. Donc, il se place comme courtisan. Évidemment, il est repéré, donc il reçoit quelques bourses d'or ou d'argent pour cela. Et puis, Colbert repère qu'on a là quelqu'un qui sait écrire, vous savez, beaucoup plus tard, comment dire, le général de Gaulle, paraît-il, a repéré Pompidou en demandant à un de ses amis: trouvez-moi un agrégé qui sache écrire. Alors, la plupart des agrégés ne savent pas écrire, mais Pompidou était en effet un agrégé, un normalien qui savait à peu près écrire, et ainsi, voilà. Donc, le pouvoir, c'est toujours pareil, a besoin de bons communicateurs, de gens qui savent écrire, de gens qui savent se présenter, et Perrault est repéré comme un type qui sait écrire, donc qui sait faire l'éloge du roi, de manière non ridicule, et donc il va mettre sa plume, hein, au service de la politique royale, sans jamais osciller d'un millimètre là-dessus. Ça va être un partisan de Louis XIV, de manière extrêmement radicale, tout le temps, au point de composer ce poème de Louis XIV. Donc, il faut l'imaginer comme un homme du pouvoir, un homme d'État. Et donc, il va être récompensé très vite. Bon, il va avoir, évidemment, toute une série de prébendes, hein. Il va être au Louvre, puis à Versailles. En gros, ça va être une sorte de ministre de la Culture de l'époque. Donc, évidemment, tous les gens qui veulent des subventions à l'époque, vous imaginez bien, sont là. C'est comme aujourd'hui, maintenant, tous les gens qui vont à la DRAC pour demander... Ils vont voir Perrault, Monsieur Perrault, est-ce que... Et lui, évidemment, sévère, oui, non. Enfin, oui, dans l'ambiance, le pouvoir, bien entendu, ça devait être pas mal croquignolé. Voilà. Et donc, il est à l'Académie française en 1671, qui est relativement jeune. Voilà, alors que La Fontaine, qui est plus jeune, va attendre, parce que La Fontaine a pris le parti de Fouquet, va attendre encore une douzaine d'années, et encore, quand il rentrera à l'Académie française, on lui fera la leçon en lui disant: monsieur, vous entrez parce que vous êtes bien gentil, mais enfin, vous avez écrit des contes érotiques, et ceci, et cela, et cela. Perrault, à ce moment-là, dirige depuis des années l'Académie française. Et donc, à l'Académie française, il fait des textes d'académiciens, c'est-à-dire des textes qui, pour nous, en général, sont terriblement ennuyeux. Des textes dans lesquels il fait l'éloge du roi, de la politique royale. C'est dans ce cadre en particulier, hein, qu'il fait l'éloge de l'édit de Fontainebleau, donc l'édit qui effectivement s'appelle lettre nouveau converti. Il indique aux nouveaux convertis, donc les ex-protestants, qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir un roi si gentil qui les arrache évidemment au protestantisme. Et bien sûr, s'ils veulent pas s'arracher au protestantisme, on leur propose des galères. Mais enfin bon, c'est parce qu'ils sont un peu idiots, hein, tout de même. Voilà. Donc on a un homme de pouvoir. Et donc, qui écrit admirablement pour le pouvoir. Alors, ce poème dont j'ai parlé, qui s'appelle « Le siècle Louis le Grand », est un grand poème, donc de 1685 ou 6, à l'éloge Louis XIV, mais c'est un poème qui intéresse toute l'histoire de la littérature française et, on va dire, européenne. Parce que, non seulement il fait l'éloge Louis XIV, évidemment, à un moment où il a été légèrement en disgrâce sur la fin du règne de Colbert, parce que Colbert était lui-même un petit peu fatigué, et que donc un certain marquis de Louvois était en train de prendre le pouvoir, voilà, et la famille de Louvois prenait le pouvoir, donc il y a eu un moment un petit peu trouble, et donc Perrault s'est dit, tapons un petit peu un coup sur la table, faisons un super éloge de Louis XIV. Alors, il fait l'éloge de Louis XIV, qui a fait tout ce qui est de bien, bien entendu, qui a fait le passage du Rhin, qui a envahi la Hollande, enfin plein de choses, qui a financé le canal du Midi, enfin il y a toutes sortes de choses comme ça, et qui a relancé les armes et les lois, qui a relancé la littérature, la peinture, la musique, le livre, en fait tout ce que vous voulez. Mais il ne se contente pas de faire l'éloge Louis XIV. Il fait plus fort que ça. Louis XIV avait envie qu'on le prenne pour Auguste. Bon, ça, le soleil d'un côté et Auguste. Il explique que Louis XIV est un roi meilleur, et la génération Louis XIV est meilleure que la génération de l'Antiquité Auguste. Donc il vient opposer les anciens, c'est-à-dire l'Antiquité, aux modernes, c'est-à-dire l'époque dans laquelle on vit. Et en gros, la thèse de Perrault est très simple. Les modernes doivent beaucoup aux anciens, mais les modernes, et c'est lui qui lance vraiment ce mot moderne, tellement important pour nous, les modernes sont mieux, grâce à Louis XIV en particulier, mais grâce au talent des artistes, des intellectuels, etc., qu'il a repéré, et en particulier grâce à Molière, Corneille, etc., enfin, tous ces gens-là, Claude Perrault pour l'architecture, Lully pour la musique et bien d'autres, sont mieux que les anciens. Et donc c'est le début de ce qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes. Une querelle fondamentale dans l'histoire de la culture française et européenne, parce qu'en effet, un certain nombre de gens qui sont des partisans du roi en particulier Boileau et Racine. Boileau et Racine sont à l'Académie française. Ils ont le même âge, hein, à peu près, que Perrault. Hein, c'est à peu près la même génération. Perrault est plus âgé que Racine, mais à peu près l'âge de Boileau, je crois, à 3 mois près, quelque chose comme ça. Donc, ces gens-là disent, mais non. D'abord, ils ne sont pas du tout contents de la stratégie de Perrault, qui fait l'éloge du roi Louis XIV avec grand bruit à l'Académie française, parce que si Perrault fait l'éloge du roi Louis XIV avec grand bruit et que ça marche, c'est eux qui risquent d'en souffrir, parce que tous ces gens, évidemment, se détestent absolument entre eux. Hein, c'est pas nouveau, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le milieu culturel, Dominique en sait parfois quelque chose, évidemment, les gens qui passent à France Culture s'adorent quand on les entend de loin, mais se détestent en réalité, enfin voilà, on le sait bien, bon, etc. À l'époque, c'est pareil, évidemment. Les rapports entre Corneille et Racine sont exécrables. Les rapports, évidemment, entre Racine et La Fontaine, charmants pendant un moment, ils se détestent terriblement. Et évidemment, Perrault et La Fontaine, en particulier, vont se détester terriblement. Ça va être terrible, hein, la bataille entre eux. Bien sûr, avec les coups bas, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, évidemment, Perrault fait l'éloge des modernes. Alors, on va arriver très vite aux contes. Vous allez voir que les contes, c'est une œuvre moderne, curieusement. Il fait l'éloge des modernes contre les anciens, et donc il développe dans un texte qui s'appelle « Le parallèle des anciens et des modernes », qu'effectivement on peut comparer les anciens et les modernes, que les anciens, c'est-à-dire l'antiquité grecque et romaine, et en particulier romaine, ont réussi une série de choses. Par exemple, à faire un phallus d'or rustique, enfin voilà, ils avaient beaucoup de technologie, à faire des intailles, etc., à faire des routes, à faire des aqueducs, etc., à faire des œuvres hein, de la littérature antique, romaine et autres. Et donc il n'y a pas de doute que Auguste a été un grand empereur, etc. Mais, dit-il, les œuvres de Racine valent bien celles de Sénèque, les œuvres de La Fontaine valent bien celles d'Ésope et de Phèdre, etc., valent bien, mais valent même mieux que cela. Et donc, curieusement, on voit les gens dont il fait l'éloge, Racine et les autres, dire « Mais pas du tout !» L'histoire humaine est une longue dégradation. Alors, c'est une idée qu'on a du mal à concevoir quant à nous, parce que nous sommes des enfants de la philosophie qu'on appelle des Lumières. C'est-à-dire que pour nous, à la fin du XXe siècle, au début du XXe siècle, on est en train de changer un peu la vie. L'humanité progresse peu à peu. Hein, c'est la grande idée de Condorcet dans un livre à la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle « Esquisse des progrès » historique de l'entendement humain. Donc l'idée, c'est, bon, ça va de mieux en mieux, regardez, la dernière génération de portables est mieux que la précédente, la dernière génération d'iPhone est vraiment beaucoup mieux que la précédente, etc., etc. Regardez, les automobiles actuelles, c'est quand même mieux que les chars du Moyen-Âge. Bon, très bien. Et donc, on explique, effectivement, le progrès des techniques, de la médecine, aussi de la morale, et on va dire, effectivement, c'est l'idée que partagent Voltaire, très largement, Condorcet, Condillac, par Rousseau, Montesquieu et bien d'autres, et qui est généralement partagée. Quand, par exemple, on nous explique une dame, je ne sais plus comment elle s'appelait, Ségolène, je crois, que son parti va s'appeler Désir d'avenir, hein, évidemment, ça se fonde sur l'idée, bien entendu, mais je crois que le RPR, à un moment, avait un slogan qui était Vivement demain, eh bien, ça suppose, Vivement demain, demain, qu'on espère que ça ira mieux demain, parce que si c'est la catastrophe qui est annoncée, voilà. Mais, évidemment, cette idée-là est une idée moderne, en effet, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un progrès et que, bon, en art, en morale, en technologie, en médecine, etc., etc., ça tend à aller de mieux en mieux et que donc on peut dire, avec le RPR d'autrefois, je crois que c'est l'époque Chirac, Vivement demain, ou avec Ségolène Royal, Désir d'avenir. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Si on lit, par exemple, le De Rerum Natura de Lucrèce dans l'Antiquité, on nous explique que l'humanité est de plus en plus en dégradation. Il y avait autrefois, dit-il, des champs de blé très riches. Il y avait une culture extraordinaire dans les coins qui sont pour nous maintenant l'Irak, la Syrie, etc. Et, dit-il, ça commence à être vraiment desséché. Alors maintenant, Lucrèce, il irait faire un tour par là-bas, il dirait non seulement c'est desséché, super desséché, mais en plus c'est bombardé. Et donc, il expliquerait, et il expliquait même que l'humanité avait une grande énergie à l'origine, l'âge d'or, et que peu à peu, ça se dégrade. Alors les chrétiens sont revenus un peu là-dessus en disant, mais il y a un temps qui est le paradis terrestre. Et puis après, bon, il se passe un tas de trucs qui sont une sorte d'effondrement lent, de développement du péché originel. Et au bout du compte, peut-être, il y aura le salut quelque part à la fin des temps. Alors c'est la grande thèse de Bossuet sur l'histoire universelle au XVIIe siècle qui explique qu'il y a eu le paradis, hein, voilà, au départ, l'âge d'or. Et puis on est dans une période de lente dégradation, on sera sauvé au dernier moment. par Dieu. Dans le meilleur des cas, certains rois de grande qualité, comme Louis XIV ou Henri IV, sauvent un peu la situation, rétablissent l'ordre. On était, bon, alors pour Bossuet, évidemment, avec l'Église protestante, par exemple, au XVIe siècle, c'était une grande catastrophe. Heureusement, Henri IV s'est converti, Louis XIII les a exterminés un petit peu, etc. Mais bon, mais voilà, ça sauve un peu la situation. Mais de toute façon, on est perdu. Hein, on est perdu jusqu'à la fin des temps. Alors, cette idée-là, que le monde dans lequel nous sommes est inférieur substantiellement aux périodes anciennes, est une idée qui était assez largement partagée, et en particulier, elle fonde la pratique artistique. Quand Racine fait des tragédies, il imite des textes de l'Antiquité. Quand Corneille ou La Fontaine font des fables ou des tragédies, ils imitent des textes de l'Antiquité en se disant « Les grands auteurs, c'est Sénèque, Euripide, Sophocle, Eschyle, etc. » Et nous, alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils pensaient. Nous, on peut essayer d'arriver à peu près à leur niveau en adaptant les choses, faire peut-être aussi bien, en tout cas c'est ce qu'ils disent, on peut y arriver presque, voilà. Mais en tout cas, c'est eux les maîtres. Et donc ça fonde une pratique qui pour nous est étonnante, c'est la pratique de l'imitation. Hein. Un art, c'est-à-dire effectivement, un grand artiste, c'est quelqu'un qui arrive au XVIIe siècle, c'est quelqu'un qui arrive à se mettre au niveau de Virgile, de Properce, de Lucrèce, de Tibulle, de qui on veut, de l'Antiquité. Et voilà, s'il arrive à peu près à être à ce niveau-là, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Or, Perrault arrive en disant, mais non, 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 nous on fait mieux. Nous on fait mieux. Alors on fait mieux en matière d'art, on fait mieux en matière de technique, technologie, etc. On a inventé des trucs que les autres n'avaient pas. Regardez, on fait des moulins, alors que dans l'Antiquité, ils ne savaient pas faire des moulins avec le vent qui tourne. On va un peu plus vite avec les carrosses du temps, les routes sont meilleures, etc. On a des médicaments nouveaux, par exemple le quinquina, hein, qui apparaît grâce à la découverte de l'Amérique. On connaît mieux le monde, etc. Donc il a toute une série d'arguments qui consistent à dire, regardez, les techniques, les technologies, pour aller sur là, les arts, la morale, on est moins affreux, on n'a pas l'esclavage, etc. Tout ça grâce au christianisme, mais surtout grâce au roi Louis XIV et à sa politique d'organisation un petit peu. Et donc là, Perrault introduit un très grand débat, qui est effectivement le débat vers la modernité. Effectivement, voilà le grand rôle dans la culture occidentale de Perrault. Il introduit ce mot moderne, et il introduit un débat, il y aura une première querelle des anciens modernes, il y aura une deuxième au XVIIIe siècle, et on va dire que c'est un débat tout à fait nouveau. Au Moyen-Âge, personne n'a connu ce débat-là. Dans l'Antiquité, non plus. Et au XVIe siècle, non plus. C'est un débat qui est à la fois esthétique, hein, en littérature, en art, en musique, ça se joue rien, politique aussi. Hein, parce que ça, est-ce que Louis XIV est un plus grand roi qu'Auguste? Mais aussi moral. Est-ce que, effectivement, la morale nouvelle, nourrie de christianisme, mais aussi de rationalisme, est supérieure à la morale de type comme Sénèque, Lucrèce ou bien d'autres, Marc Aurèle, etc. Ces gens-là, est-ce que effectivement il n'y a pas quelque chose qui... Voilà. Et effectivement, de cette manière, Perrault va être approuvé par la suite, c'est-à-dire par la philosophie qui va le suivre, c'est-à-dire la philosophie du XVIIIe siècle, qui va retirer de ce parallèle des anciens et des modernes cette idée centrale du progrès. Hein, voilà, il y a un progrès en art, il y a un progrès en morale, il y a un progrès en technique, etc. Et des auteurs comme Oudard de Lamotte, Fontenelle, puis après Montesquieu et bien d'autres, vont s'inspirer de Perrault au point que l'idée du progrès, l'idée des, pour nous, le parallèle des anciens et modernes, en général. Alors maintenant, depuis Hiroshima, depuis la crise écologique, etc., il y a de plus en plus de gens qui se disent peut-être que ça va de plus en plus mal, donc on revient un petit peu à la case départ. Mais en gros, la modernité, bon, des gens comme Jules Verne, Victor Hugo, Sartre, enfin bien d'autres, bien sûr, Général de Gaulle, si on veut, enfin François Mitterrand, Ségolène Royal, enfin Jacques Chirac, peu importe, je fais le paquet général. L'idée collective, c'est effectivement, il y a un progrès qui est à la fois un progrès technique, moral, religieux, éventuellement, etc., et qui concerne l'ensemble de l'humanité. Ça va de mieux en mieux, on peut espérer. Alors on ne dit pas qu'il y a des crises, etc. Cette idée-là, Perrault est le premier à la formuler de manière explicite, et alors pour des raisons qui sont un peu paradoxales, puisque lui, il s'agissait d'abord pour lui de faire l'éloge du roi Louis XIV. Et s'il faisait l'éloge du roi Louis XIV, c'était certainement par conviction. Hein, il était en effet royaliste, ça n'a pas de sens, parce que les autres étaient aussi royalistes. Enfin, il était partisan de cette politique d'État. Il adhérait vraiment aux thèses de Louis XIV, visiblement, mais il y avait aussi intérêt. Hein, c'était vraiment un intérêt. Et quand on dit un intérêt, c'est pas simplement son intérêt, mais c'est l'intérêt de sa famille, c'est-à-dire de ses frères, de ses enfants, bien entendu. Et c'est dans ce cadre-là, quelques années plus tard, à la fin de sa vie, qu'il publie son œuvre, qui, elle, nous intéresse pour des raisons qui ne sont pas du tout celles du dialogue des anciens et des modernes, enfin du parallèle entre les anciens et les modernes, c'est les Contes de Perrault, qui paraissent en 1696 chez un éditeur très important du temps qui s'appelle Barbin. Alors Barbin, au XVIIe siècle, c'est à peu près l'équivalent des éditions de Minuit aujourd'hui. Vous savez, les éditions de Minuit, donc, c'est cette maison d'édition qui est apparue dans les années 50 et qui remplacée un petit peu par Paul, un peu plus tard, hein, voilà, dont le fondateur est mort là, il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, à un certain moment, bon, les éditions de Minuit, pendant 20 ou 30 ans peut-être, ont publié ce qui comptait en littérature moderne intéressante, bon, par exemple, l'ensemble du nouveau roman, hein, quelque chose comme de ce genre. Et donc, effectivement, Barbin, c'est l'éditeur de ce qui compte dans ce qu'on appelle la littérature classique. C'est par exemple l'éditeur de La Fontaine. Hein, voilà, c'est lui qui lance La Fontaine. Et donc, ce n'était pas du tout évident, parce que quand il lance La Fontaine, c'est un auteur nouveau, voilà, il faut bien lancer. Voilà. Et donc, c'est une maison d'édition très importante qui connaît, ça s'appelle une librairie à l'époque, qui connaît un moment de crise dans les années 1685-86, qui est repris par la fille de Barbin. Et en 1696, c'est un moment de relance, cette maison d'édition, bon, enfin, qui s'appelle à l'époque une librairie. Donc, c'est un livre publié dans une maison d'édition importante qui compte, qui est centrale dans le dispositif, disons, dans le dispositif littéraire du XVIIe siècle. Hein, vous savez bien que dans les maisons d'édition, encore aujourd'hui, ce n'est pas la même chose d'être publié chez Gallimard, Minuit ou chez Paul, ou d'être publié bon, chez un tout petit éditeur local à Toulouse ou au fond de l'Ariège. Et donc, il y a des politiques des maisons d'édition. Barbin, c'est le cœur du truc. Hein, on n'est pas édité chez Barbin qui veut. Ça veut dire aussi la possibilité d'être publié dans l'Europe entière. Et une bonne partie de l'Europe lit et parle français, hein, déjà, hein, très largement. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV a gagné une série de choses du point de vue militaire, mais aussi a convaincu une bonne partie de l'Europe que l'Europe qui pense, c'est plus l'Italie, c'est maintenant la France. Et ça va être le grand succès, disons, de la francophonie au XVIIIe siècle dans l'Europe, jusqu'à ce moment où Frédéric II de Prusse parlera français, ne parlera pas allemand. Hein, voilà le phénomène. La cour d'Angleterre parle essentiellement français, etc., etc. Donc, publier un livre chez Barbin à Paris, c'est à la fois être assuré d'une réussite potentielle en France, mais aussi en Europe. Hein. Perrault va être extrêmement connu, lu en français directement par... voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des contes de Perrault ? Deux, trois mots simplement, avant de lire Le Petit Chaperon rond rouge. Rien ne prédisposait Perrault, apparemment, à écrire les contes de Perrault. Donc, l'œuvre de Perrault, c'est des panégyriques du roi, c'est des lettres académiques, c'est des traités historiques sur l'Académie française, c'est ou de petites histoires, des poèmes un peu libertins, comme La Métamorphose du Cuiris Anas, etc. Et c'est des quantités de rapports politiques, moraux, etc., à l'intérieur de l'administration française. Voilà, c'est un écrivain, comme Roland Barthes appelle ça un écrivain, hein, pour opposer ça à un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, qui sait très bien écrire, mais qui n'a pas d'œuvre, qui n'a pas de style. Et donc, voilà un vieux bonhomme qui décide de faire autre chose que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc, il y a une rupture complète. Alors, c'est une sorte d'énigme. Il y a plein d'énigmes dans la littérature, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle en particulier. Une des énigmes, c'est pourquoi Racine arrête-t-il à un certain moment de faire du théâtre après la pièce qui s'appelle Phèdre, qui est un grand succès, mais il arrête. Alors, il y a mille raisons qu'on peut interpréter, mais il y a une sorte d'énigme. Quant à Perrault, c'est une sorte d'énigme inverse. Comment se fait-il que ce vieux bonhomme, en 1696, quelques années avant sa mort, publie un petit recueil qui s'appelle Contes, voilà, et qui est la seule chose qui reste de lui pour nous, à part dans le plan de l'histoire des idées, l'histoire de la modernité. Alors, ça a un rapport avec la question de la modernité. Perrault a repéré qu'un des grands succès de librairie au XVIIe siècle, c'est les Fables de La Fontaine. La Fable de La Fontaine s'est publiée à partir de 1668. On célèbre cette année le 350e anniversaire des Fables de La Fontaine. Il y a un deuxième volume en 1678. Ça continue jusqu'en 1691-12. La Fontaine, bon, remporte un très grand succès d'estime, etc. Il est traduit. Ça se voit partout, dans les tableaux, dans les tapisseries, dans les musiques, dans les sujets de mélodies musicales, etc. En Europe entière, La Fontaine est un très très grand succès. La Fontaine n'écrit pas pour un public populaire. Il écrit pour l'aristocratie, les bourgeois, le clergé, gens comme ça, mais le succès est considérable. Or, qu'est-ce que fait La Fontaine ? La Fontaine imite, dans presque toutes ses fables, des textes qui viennent de l'Antiquité. Et il les fait en vers. Donc, La Fontaine est exactement un ancien. Il prend les textes de Phèdre, qui est un auteur latin, il prend les textes d'Ésope, il prend des textes parfois qui viennent du Moyen-Âge, bon, quelquefois des textes qui viennent d'Orient, mais le cœur de bataille, ce sont les fables antiques, grecque et romaine, et il les met en vers. Donc, il fait exactement de l'art classique, c'est-à-dire une imitation Il a défini, d'ailleurs, mon imitation n'est pas un esclavage, c'est une imitation qui n'est pas une servilité, très bien, mais c'est des variations sur quelque chose d'ancien. Et donc, dans ses préfaces, et partout, il dit, mes fables sont peut-être pas mal, mais, bon, alors, sans doute n'était-il pas tout à fait sincère, mais le grand maître, c'est Ésope. Le grand inventeur, c'est Ésope, Phèdre, des gens de l'Antiquité. Moi, j'introduis des variations par rapport à cela, des variations plus ou moins intéressantes. Perrault se dit manifestement, non, il faut faire quelque chose d'autre, on va faire des contes moderne. Alors des contes modernes, c'est-à-dire des contes qui ne remontent pas à l'Antiquité. Certes, évidemment, dans l'Antiquité, on a raconté des contes. Par exemple, l'histoire de Psyché, qu'a raconté, effectivement, La Fontaine à son tour, dans un roman qui s'appelle Les amours de Psyché et de Cupidon. Psyché, c'est une histoire qui est racontée par Apulée dans un livre qui s'appelle L'Andor. Il y a eu des contes comme La Matrone d'Éphèse. Bon, mais Perrault observe que ces contes ne sont pas d'une grande moralité. Parce que, vous savez, dans la Matrone d'Éphèse, ce qui se passe, on donne à une dame, son mari est mort, et on donne à des soldats l'occasion de garder un petit peu ce tombeau, et la dame, pendant que son mari est mort, après avoir un peu pleuré, va se taper un des soldats qui garde le tombeau. Et donc, c'est la Matrone d'Éphèse explique, entre autres choses, que c'est pas... Bon, les femmes sont infidèles, enfin voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle tirait comme moralité de tout ça? C'est pas très positif, enfin voilà. Alors, Perrault commente un peu tout ça en disant « Ces contes sont rigolos, sont étranges, sont amusants, mais les contes français, premier plan, français, et d'autre part modernes, c'est-à-dire qui ne viennent pas de l'Antiquité, qui viennent de nos grands-mères, de mères grandes, les contes de ce qu'ils appellent le temps passé, donc qui sont ni latins, ni grecs, et qui sont français, hein, qui viennent à ses yeux du territoire, hein, du biotope, etc., sont des contes qui sont peut-être plus moraux et qui sont peut-être plus riches en possibilités de rêve que les contes, effectivement, qui viennent de l'Antiquité. Donc, peut-être bien, on peut opposer à Racine, à La Fontaine et à ces gens-là, qui sont des imitateurs de l'Antiquité, des contes qui viennent de la modernité. Alors, c'est un aspect qu'on oublie un petit peu. Les contes de Perrault, c'est des contes modernes qui se jouent contre des contes anciens, donc c'est un premier paquet de raisons. Et Perrault le théorise, hein, dans la préface de ses contes, très fortement. Les contes, c'est un programme littéraire et politique, artistique et politique, contre La Fontaine, Racine et tous les autres, c'est un programme moderne. Hein. Moi, j'arrive avec mes modernes, je suis un artiste moderne, voilà, je fais les contes de Perrault, donc voilà quelque chose qui est important. Et on va voir qu'effectivement, il fait vraiment ça. Deuxièmement, il y a une sorte d'énigme tout de même, pourquoi Perrault était arrivé à faire des contes. Alors, il se trouve que Perrault avait un fils, qui s'appelait ensuite d'Armancourt, qui est mort très jeune au demeurant, et parce qu'il est mort, bon, comme on meurt souvent au XVIIe siècle, vous savez, on a souvent des maîtresses, et puis il faut se battre pour les copines, etc. Et puis on se prend un coup d'épée, et voilà, on meurt. Ça, c'est comme ça que Madame de Sévigné a évité d'avoir un mari très rapidement, puisque donc son mari s'est battu pour une maîtresse, liquidée, et ensuite Madame de Sévigné n'a pas fait l'erreur de se remarier. Hein, ça lui a permis d'écrire des lettres, bien sûr. Donc, beaucoup d'hommes meurent dans des duels, et des duels qui sont liés à des histoires, bon, troubles de fesses, on va dire, voilà. C'est ce qui arrive au fils de Perrault. Mais, très bien, le détail importe peu, enfin, un autre fils qui lui posait des problèmes d'argent, enfin, il n'y a pas eu de chance avec ses enfants. Très bien, mais quand le petit Perrault était enfant, visiblement, Perrault lui a fait écrire des contes. Et il semble-t-il, le fils Perrault était super doué pour écrire des contes. Alors on faisait beaucoup ça, hein, c'est-à-dire on écrivait des histoires. Bon, on a par exemple la façon dont le jeune duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, est éduqué par Fénelon. On lui fait écrire des fables, des petits contes, etc. Donc le père Perrault fait faire à son fils cela. Et les premiers textes de Perrault, il précise, hein, avant 1696, dans des éditions préalables, enfin je ne rentre pas dans les détails érudits, il précise que ces contes viennent de son fils. Alors il est probable, il est possible qu'effectivement, le vieux Perrault, attendri par son bambin, qui devait avoir 13 ans à peu près à ce moment-là, 12 ans, etc., faisant des contes, a dialogué avec lui, s'est dit « mais c'est pas mal, il y a une fraîcheur, il y a quelque chose comme ça ». Donc il y a un élément de vie personnelle qui sans doute a arraché Perrault, qui était essentiellement un académicien près du pouvoir, etc., il est jusqu'à la fin, hein, cela il n'arrête jamais, hein, véritablement. Mais le vieux Perrault a dû se dire « ah, il y a c'est quelque chose d'intéressant dans l'enfance », arrêtons de penser uniquement à la carrière. Voilà un aspect qui est important. Alors, évidemment, sur cela, un auteur qui s'appelle Marc Soriano, qui s'intéresse beaucoup à la psychanalyse, mais aussi Bruno Bettelheim, insiste beaucoup en disant si Perrault a écrit cela, c'est probablement en partie pour des raisons personnelles. Et sans doute l'apparition de son fils, de ce jeune enfant, mais aussi parce que Perrault avait un frère jumeau quand il était petit, et ce frère jumeau est mort. Et probablement y a-t-il là une blessure très originale, Perrault le survivant, et Bettelheim et Soriano insistent, surtout Soriano, sur l'idée que peut-être dans les contes, Perrault essaie de revivre, il y a des histoires de jumeaux en grand nombre dans les contes, son histoire du passé. On ne sait pas. On ne sait pas, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que Perrault, en 1696, publie un ensemble de contes. Il y en avait eu quelques-uns déjà publiés en 1691, en 1694, mais ce qu'on appelle les contes du temps passé, c'est 1696, dans lequel il y a le petit chaperon rouge. Alors, je ne vais pas déboucler sur Perrault, on va lire le petit chaperon rouge, et après on va s'aventurer dans ce texte labyrinthique, d'une complexité absolue, et qui devrait être, à mon avis, interdit partout, tellement il est étrange, qui s'appelle le petit chaperon rouge. Hein, voilà. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grande, plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte la mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grande, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien !» dit le loup. « Je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici. » Et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille, s'en alla, par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grande. Il heurte. « Toc, toc, qui est là ?» « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette, cher rat !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelques temps après, vint heurter à la porte. « Toc, toc, qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevinette et la bobinette, chéra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ?»«
C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »«
Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes ?»
« C'est pour mieux courir, mon enfant. »«
Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. »«
C'est pour mieux écouter, mon enfant. »«
Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. »«
C'est pour mieux voir, mon enfant. »«
Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. »«
C'est pour te manger. »
Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange.
Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Alors, actuellement, la mode, c'est balance ton porc. Là, c'est balance ton loup. Balance ton loup. Alors, je préviens volontiers mes étudiantes, de temps en temps encore, j'en avais une hier, de se méfier beaucoup des jeunes gens qui sont autour, qui sont des mathématiciens souvent, qui sont dangereux, quoique doucereux, bien entendu, hein, bien entendu. Voilà. Alors, assez souvent, on oublie cette morale qui accompagne, cette moralité qui accompagne, en effet, ce conte qui s'appelle « Le petit chaperon rouge ». Et donc, le dispositif de Perrault, c'est à la fois un conte, et puis, effectivement, une moralité, un peu comme chez La Fontaine, hein, voilà. Une moralité développée, longue, voilà. Qu'on supprime assez souvent, hein, parfois, voilà. On se dit peut-être, voilà. Et on sent bien que cette moralité, c'est la moralité d'un vieil homme, hein, qui s'en sait long, bien entendu, hein, sur les loups et sur les jeunes filles, qui lui-même, peut-être, a bien connu ce qui se passe dans la vie véritablement, voilà. Et que donc le conte, peut-être, on le voit par la moralité, n'est pas nécessairement adressé à des petits-enfants, tout petits, mais au moins à des gens qui ont 15 ou 16 ans, des jeunes femmes, bien entendu, et qui peut-être, au fond, c'est pas philosophie dans le boudoir, mais c'est philosophie à la campagne, hein, voilà, ce dont on nous prévient un petit peu. Donc on a ce conte avec cela. Alors, ce conte-là, comme beaucoup de contes, a une histoire préalable. Si on se rend à Bourges, dans la maison de Jacques Coeur, il y a une figuration sur un linteau du petit chaperon rouge. C'est-à-dire, on voit un loup, on voit un enfant qui porte un petit pot, et puis on voit une vieille femme dans une maison. Et donc, on sait, enfin, c'est pas écrit dessus, mais enfin, on se doute bien, c'est bien évident, que c'est quelque chose qui évoque, comme souvent dans les œuvres médiévales, un conte. Mais on n'a pas le texte, voilà, on n'a pas le texte à côté. Le conte lui-même, du petit chaperon rouge, on se doute qu'il est en effet beaucoup plus ancien que Perrault. Mais la version écrite la plus ancienne dont on dispose, c'est celle-là. Donc, on ne sait pas, précisément, ce que Perrault a utilisé comme matériel quand il dit que ce sont des contes qui viennent de la grand-mère, enfin, bien entendu. Simplement, il y a eu des gens qui, au XIXe siècle, comme vous savez, ici dans l'Aude ou ailleurs, des folkloristes, qui se sont mis à la recherche de versions qui sont racontées par des vers grands, par exemple, bien entendu. Hein, c'est-à-dire, donc, on est allé sur le terrain pour voir ce qui se raconte comme conte, ici, ailleurs, dans le Nivernais ou ailleurs. Et donc, ils ont recueilli des versions du petit chaperon rouge, qui sont compliquées à identifier, en quelque manière, à interpréter. Parce que, d'un côté, ces versions remontent certainement à des modèles plus anciens que le conte de Perrault lui-même, mais aussi, ces versions étaient impactées par le conte de Perrault. C'est-à-dire qu'effectivement, une version qui est recueillie en 1870, par exemple, dans l'Inverness, chez des personnes anciennes, qui disent qu'elles ont recueilli ça de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents, etc. Bien sûr, on voit bien qu'il y a probablement un substrat très ancien. C'est aussi des versions qui sont recueillies deux ou trois siècles après la version de Perrault. Et donc, et bien sûr, le conte de Perrault a impacté toute la France, hein, toute la France et on va dire toute l'Europe. Et donc, les versions qu'on a recueillies sont à la fois reliées à quelque chose de très ancien, très certainement, mais en même temps transformées par le conte de Perrault lui-même. De même, par exemple, à travers le pays de France, il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent le palais de Gargantua, le lieu de Gargantua, le rocher de Gargantua. Dans certains cas, on est certain que c'est des choses qui sont antérieures à Rabelais, au XVIe siècle, mais dans la plupart des cas, ce sont des lieux qui ont été nommés après Rabelais. C'est-à-dire qu'effectivement, les œuvres littéraires, ou aujourd'hui cinématographiques, ou n'importe, ou picturales, ont un impact sur la culture, et donc c'est pas parce que c'est dans des coins perdus que ça n'a pas été influencé par les cultures du centre. Alors, je prends un exemple d'un de ces contes, tel qu'on l'a récupéré dans les années 70 dans le Nivernais, pour vous donner un peu une idée, non pas de ce qu'a utilisé Perrault, mais bon, d'autres ambiances de ce conte-là. Alors ce conte-là, j'en lis quelques morceaux. Vous allez voir, c'était différent de Perrault. C'était une femme qui avait fait du pain. Elle disait à sa fille, « Tu vas porter une époigne toute chose et une bouteille de lait à ta grand. » Voilà qu'il s'est parti, elle a croisé de deux chemins. Elle rencontre le bzou qui lui dit, « Où vas-tu ? » ?»« Je porte une époigne toute chaude et une bouteille de lait à ma grand. » « Quel chemin prends-tu ? » dit le bzou. « Celui des aiguilles
ou celui des épingles ? Celui des aiguilles, dit la petite fille. Eh bien, moi, je prends celui des épingles. La petite fille s'amusa à ramasser des aiguilles. Et le bzou arriva chez la mère grande, la tua, mit sa viande dans l'arche et une bouteille de sang dans la bassie. La petite fille arriva, frappa à la porte. « Pousse la porte, dit le bzou. » Elle est barrée avec une paille mouillée. « Bonjour, ma grande. Je vous apporte une époigne toute chaude et une bouteille de lait. Mêlez dans l'arche, mon enfant. Prends la viande qui est dedans et une bouteille de vin qui est à la bassie. » Suivant qu'elle mangeait, il y avait une petite chatte qui disait « Pu, salope, qui mange la chair, qui boit le sang de sa grande. » « Déshabille-toi, mon enfant, dit le bzou, et viens te coucher vers moi. » Et ce côté, balance ton corps. « Où faut-il mettre mon tablier ? Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. » Et pour tous les habits, le corset, la robe, le cotillon, les chausses, elle lui demandait où les mettre. Et le loup répondait « Jette-les au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. » Quand elle fut couchée, la petite fille dit « Oh, ma grande, que vous êtes poilouse !» C'est joli, hein, mais que vous êtes poilouse. « C'est pour mieux me réchauffer, mon enfant. Oh, ma grande, ces grands ongles que vous avez. C'est pour mieux me gratter, mon enfant. Oh, ma grande, ces grands épaules que vous avez. C'est pour mieux porter mon fagot de bois, mon enfant. Oh, ma grande, ces grandes oreilles que vous avez. Oh, c'est pour mieux entendre, mon enfant. Oh, ma grande, ces grands trous de nez que vous avez. C'est pour mieux priser mon tabac, mon enfant. Oh, ma grande, cette grande bouche que vous avez. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Oh, ma grande, que j'ai faim d'aller dehors. Fais au lit, mon enfant. Ah non, ma grande, je veux aller dehors. Bon, mais pas pour longtemps. Le bzou lui attacha un fil de laine au pied et la laissa aller. Quand la petite fut dehors, elle fixa le bout du fil à un prunier de la cour. Le bzou s'impatientait et disait « Tu fais donc des cordes ! Tu fais donc des cordes !» Quand il se rendit compte que personne ne lui répondait, il se jeta au bas du lit et vit que la petite fille était sauvée. Il la poursuivit, mais il arriva à sa maison juste au moment où elle entrait. On reconnaît bien ce qu'on appelle le petit chaperon rouge, mais il n'y a pas de chaperon rouge. Bon, le loup est devenu... Enfin, le bzou.
Oui, c'est exactement la version que FFF a mis en spectacle.
Plus hard, hein, on va dire. Hein, voilà. C'est pas du loup, c'est du bzou. C'est Valence son bzou. Hein, voilà, voilà. Donc c'est du show. Donc, il y aura du poilouze tout à l'heure. Hein, voilà, les poilouzes. Que vous êtes poilouze. Hein, voilà. Donc, on voit que c'est la même structure quelque part. Hein. Il y a une maman, il y a une enfant, une jeune fille, une petite fille, il y a un animal, le loup, le bzou, etc. Et il y a une mère grand, et puis un itinéraire, un voyage d'un point à l'autre, et il s'agit d'apporter quelque chose. Première différence évidente, il y a deux chemins, dont l'un s'appelle le chemin des aiguilles, et l'autre, le chemin des épingles. On voit que cette histoire du chemin des aiguilles, des épingles, on la rencontre un peu partout dans des contes, mais elle disparaît hein, dans le conte de Perrault. Et par exemple, dans un autre conte, une autre version, « Où vas-tu ? Je porte une épingle, toute chose et une bouteille de lait à ma mère grand. Quel chemin prends-tu ? Dit le bzou. « Celui des aiguilles et celui des épingles. »« Celui des aiguilles, la petite fille. »« Et moi, je prends celui des épingles. » Donc, les épingles et les aiguilles disparaissent du conte de Perrault, parce que ça ne l'intéresse pas. Évidemment, ensuite, le petit chaperon rouge arrive chez le loup, mais déjà, le loup, le bzou, est arrivé avant. Ça, c'est même chose. On voit que dans le conte de Perrault, il y a la bobinette chez rat, etc., mais on ne trouve pas dans le conte préalable. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans les traditions populaires manifestement anciennes, mais après, les vieilles dames racontent avec la bobinette chez rat, etc., mais manifestement, elles sont inspirées par Perrault. Et puis, bien sûr, arrive la scène centrale, dont on voit évidemment que le ton n'est pas le même. Hein, ben, en effet, c'est plus grossier, très clairement. Mais il y a un épisode qui est frappant, c'est que le petit chaperon rouge est amené à manger la grand-mère. Puisque le loup, bien sûr, mange la grand-mère, il faut bien faire son boulot. Mais ensuite, il la met en bouteille, il en fait du pâté, enfin, il met le sang. Et le petit chaperon rouge vient en quelque sorte communier avec le corps de la grand-mère, puisqu'à la fois le solide et le liquide. Et puis voilà. Et pendant qu'elle mange la grand-mère et qu'elle boit la grand-mère, la chatte à côté dit salope putain, etc. Voilà. Donc il y a cet animal en plus. Voilà. Et donc le petit chaperon rouge est comme peut-être le petit chaperon rouge qui n'est pas le petit chaperon rouge dans ce cas-là est plus ou moins au courant de cette affaire-là. Et puis ensuite, on voit bien, très lourdement signalé dans la version névernaise que j'ai lue et qui sera donc lue tout à l'heure, qui a évidemment une dimension sexuelle extrêmement forte, et que donc le bzou, plus tard le loup, demande au petit chaperon rouge d'enlever tous ses vêtements, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le petit chaperon rouge le fait, ça ne dérange pas tellement, hein, voilà. Donc elle se fout à poil, si on peut dire, dans le lit du petit chaperon rouge, et finalement,
Le petit chapeau. Et donc, on voit bien que dans le conte de Perrault, il ne reste qu'un seul mot, qui est un peu étrange. Elle se déshabille. Hein, voilà. Elle se déshabille, ce qui est un peu étonnant, hein, mais il le conserve véritablement. Et puis, au bout du compte, en effet, dans la version nivernaise qu'on a évoquée, le petit chaperon rouge, qui n'est pas le petit chaperon rouge, donc la petite fille, d'accord, s'évade en prétextant du fait qu'elle a un besoin très urgent à faire. Elle sort, le loup la retient par une corde. Alors ça, c'est un motif de conte très très ancien dans les contes de La Fontaine, les contes de Boccace, etc. Des quantités de maris essaient de retenir leur femme en mettant une ficelle, etc. Mais toujours, quand vous mettez une ficelle au pied des femmes, elles foutent le camp. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et le petit chaperon rouge, classiquement, va dans le truc, bon, on fait, et puis s'évade, et le loup est un crétin des Alpes, puisqu'il était sur le point de manger le petit chaperon rouge, il le perd. Donc on n'a pas effectivement de fin terrible comme dans le conte de Perrault. Si maintenant je vais ailleurs, si on connaît souvent la version de Grimm, et souvent je vois mes étudiants croire que la version de Perrault c'est la version de Grimm, donc au point de départ on a un peu les mêmes éléments, il y a une maman, la galette, etc. Il y a le petit chaperon rouge là maintenant, il est vraiment le petit chaperon rouge, il y a le loup qui a une course, enfin entre deux chemins, un court, un long, et dans le conte de Grimm, dans les frères Grimm donc du début du XVIIIe siècle, conte allemand, il y a des chasseurs qui arrivent à la fin et qui sauvent la grand-mère et le petit chaperon rouge qui sont dans le ventre du loup. Et donc se passe cet épisode extraordinaire, les chasseurs ouvrent le ventre du loup et là, hop, ils trouvent le petit chaperon rouge qui est un peu embêté d'avoir pendant quelques temps dans le ventre du loup. La grand-mère aussi est un petit peu dolorie, c'est un peu embêtant d'être dans le ventre du loup en un moment, mais voilà, on met, et le loup n'en meurt pas d'ailleurs, mais on met des cailloux dans son ventre, on resserre, et puis après le loup a des problèmes d'estomac, enfin voilà, et il finit par mourir parce que voilà. Le loup n'est pas très embêté qu'on lui ouvre le ventre, les autres sortent, bon, et donc le petit chaperon rouge et la grand-mère sont sauvés grâce aux chasseurs, et on ramène, la maman qui était quand même un petit peu inquiète, donc retrouve sa petite fille et sa maman, donc les choses finissent bien. Donc on a dans la version de Perrault quelque chose qui n'est pas la version, effectivement, de Grimm, qui sont racontées, et qui, et en effet, la version de Perrault est beaucoup plus dure. Il y a des quantités de versions du petit chaperon rouge. Avant de venir sur le texte de Perrault, je vous conseille beaucoup de regarder, vous le trouvez facilement sur Internet, et si vous n'avez jamais vu, la version de Tex Avery. Dans la version de Tex Avery, donc, voilà, vous avez ceci, donc le petit chaperon rouge, le loup et la grand-mère se retrouvent dans la chambre de la grand-mère, et ils en ont vraiment marre. Ils en ont marre de faire toujours la même histoire, avec toujours la grand-mère qui est mangée par le loup et le chaperon rouge, etc. Ils en ont assez, tous les trois en ont absolument assez de cette histoire, donc ils veulent une autre histoire, voilà, ils protestent. Ils sont propulsés dans le XXe siècle, et donc on voit le loup qui est au volant d'une voiture, c'est une espèce de type, un dragueur abominable, voilà, certains l'ont vu sans doute. Il arrive vers une sorte de boîte de nuit à New York, qui s'appelle Le Chaperon Rouge, je laisse le côté l'anglais. Là-dedans, il y a une petite jeune femme qui danse, voilà, qui se déshabille un petit peu sur la scène, et le loup se met à la table, et il la regarde avec ses yeux qui sortent, il veut l'inviter à sa table, voilà, les yeux sortent, il l'invite à sa table, et il veut se la faire, enfin, véritablement, et paf, elle lui balance un coup de pied, voilà, où, elle dit non, hein, voilà. Mais il a compris en même temps qu'elle allait ensuite rejoindre sa grand-mère au 36e étage de l'Empire State Building ou autre. Et donc, comme il est rejeté par le petit chaperon rouge danseuse super sexy, il se dit, je vais la retrouver chez la grand-mère. Il monte l'immeuble et il va chez la grand-mère tout à fait en haut du haut, du haut, du haut. Et la grand-mère est une vieille coquette qui a envie de se taper le loup. Le loup rentre dans l'appartement et il arrive pour le petit chaperon rouge et la grand-mère se jette sur lui. Et lui essaie de s'évader. Il n'en peut plus. Voilà, bon, voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est une nouvelle histoire et le loup ayant réussi après pris mille coups, tombé mille fois, fait toutes les bosses, enfin, etc. Survit, comme dans tous les animés de Tex Avery, redescend et se retrouve de nouveau dans la boîte de nuit du chaperon rouge, et il voit le petit chaperon rouge est toujours là, et là il se suicide, poum, voilà, il meurt, et à peine il est mort, il ressuscite aussitôt, son fantôme ressuscite, et de nouveau il désire le petit chaperon rouge, donc il est de nouveau pris dans une histoire qui n'en finit plus, hein, voilà, non, voilà. Donc c'est une histoire un peu borgésienne, où comme chez Borges, les histoires se répètent sans arrêt, on les sortir de l'histoire, et on retombe toujours dans la même histoire. Donc les variations sur le petit chaperon rouge sont innombrables, il y en a eu sans doute beaucoup avant Perrault, et il y en a eu énormément après Perrault. Donc, quelque part, le petit chaperon rouge est sans doute un moment, le petit chaperon rouge de Perrault est un moment du conte qu'on peut appeler le petit chaperon rouge si on veut en général, mais qui est le conte de la jeune fille qui porte à sa grand-mère quelque chose à manger, hein, et qui se finit manger. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, il y a des numérotations dans ces contes. Ce conte est méditerranéen sur une très large aire, avec des variations dont on a une des variations. Au fond,
c'est quelque chose qu'on connaît bien en histoire, en littérature. Bon, les fables de La Fontaine, je prends La Cigale et la Fourmi, c'est une fable extrêmement ancienne, hein, qui remonte à Ésope, au moins, enfin, beaucoup plus ancienne. On a des traces en Égypte sur quelques papyrus. Certains disent que ça remonte à la Chine, en réalité. Puis, bon, très bien, une cigale, une fourmi qui peut devenir une mouche, enfin, il y a des variations. Et donc, La Fontaine produit une version géniale, hein, de l'histoire de La Cigale et la Fourmi, mais depuis, des quantités de gens ont fait d'autres cigales et des fourmis, hein, en dessin animé, en cinéma, en récit plus ou moins long, etc. Et bien sûr, donc c'est un type d'histoire bien connu, donc un thème a des variations extrêmement nombreuses, et une de ces variations, parfois plusieurs, devient matière d'un objet artistique exceptionnel, hein, à nos yeux. C'est ainsi que l'histoire de Don Juan a plusieurs occurrences exceptionnelles chez Molière, chez Tirso de Molina, chez Mozart et quelques autres. Et c'est toujours la même histoire, mais c'est jamais la même histoire. Le Petit Chaperon Rouge, donc, c'est un moment dans l'histoire de ce récit très ancien qu'on peut appeler, si on veut, le Petit Chaperon Rouge. Alors, on voit, en le parcourant un petit peu, qu'il y a un certain nombre d'apports de Perrault. Par exemple, l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Il est très probable que l'histoire du Petit Chaperon Rouge, c'est-à-dire le Chaperon Rouge, c'est une invention de Perrault, ou peut-être de son fils, ou peut-être du petit milieu qui est autour de lui. Parce qu'en effet, le chaperon, donc, c'est quelque chose qui vient couvrir. Effectivement, ce n'est pas le voile islamique, hein, c'est quelque chose qui vient couvrir cependant les femmes. Au fond, un chaperon, dans la région, il y a des gens justement à Grèze qui fabriquent des calines, c'est-à-dire des chapeaux pour protéger un peu les paysans, les paysannes du soleil, qui s'appellent en Vendée les quichenottes, les quisminottes pour protéger un peu des baisers, donc des baisers des Anglais, qui étaient toujours par là. Et donc, c'est le chaperon protège en partie les côtés du visage, le visage protège du soleil, enfin, il a plusieurs fonctions. Et on sait bien aussi qu'un chaperon, quand une jeune femme est accompagnée par un chaperon, c'est pas nécessairement très agréable pour elle. Je conseille mes étudiantes d'avoir des chaperons pour protéger leur vertu, elles veulent pas, bon, tant pis, voilà. Et donc, un chaperon, c'est bon, un modèle de coiffe, mais qui, au XVIIe siècle, est une coiffe paysanne et elle-même archaïque. C'est-à-dire qu'effectivement, en disant chaperon, on signale qu'elle vient de Trou-sur-Blède, de rustique peut-être, hein, voilà, qui cependant, d'après M. Le Maire, est le centre du monde, je suis d'accord avec lui. Mais donc, on est dans quelque part, quelque chose qui n'est pas Paris, qui n'est pas Versailles, qui n'est pas les grandes villes de France. On est vraiment dans une zone, on ne sait pas très bien où on est, hein, voilà, on est loin, on est dans le passé. Et évidemment, cette couleur rouge est surprenante, parce qu'en effet, jamais un chaperon n'est rouge. Le chaperon doit être noir, marron, sombre, voilà. Hein, il est fait pour être utile, hein, pour se protéger du soleil, des Anglais peut-être, des choses comme ça. Mais il n'est surtout pas fait pour être visible. Évidemment, le rouge, c'est quelque part un anti-chaperon. Voilà. Donc, le chaperon dit, d'un côté, protection, abri, côté un peu ringard, ancien, etc. Et d'autre part, il dit rouge. Alors, il dit pas rouge avec le Parti communiste, hein, bien entendu. Ce n'est pas le petit livre rouge de Maurice Etoule. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec la Révolution française, etc., que le rouge a pris cette signification qui, pour nous, est celle de la Révolution, etc., Mao et tout ce que vous voulez. Donc, bien sûr, le rouge, c'est une couleur plutôt aristocratique. C'est une couleur chère, bien entendu. Hein, bon, les paysans ne portent pas de rouge. Mais évidemment, à la cour de Versailles, on peut porter du rouge pour dire, bon, voilà, j'ai de l'argent, je suis visible, et même à la guerre, j'ai pas peur, parce qu'on me voit véritablement. Évidemment, c'est la couleur du sang, etc. Bon, c'est une des couleurs, disons, que l'aristocratie aime bien porter, le jaune vif, le bleu, le rouge, etc., le blanc, hein, voilà. C'est des couleurs qui coûtent de l'argent, tout simplement, voilà, et qu'on voit de loin et qu'on manifeste. Donc, ce rouge dit presque le contraire de chaperon, hein, voilà. Donc, c'est un personnage ambivalent. Et enfin, le chaperon, c'est un mot masculin. Et c'est assez étrange. Si vous regardez la façon dont Perrault écrit, alors Perrault est évidemment, enfin, il a un grand classique français qui ne fait pas de faute de français. La dernière phrase du conte dit ceci: et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Dans certaines éditions, on corrige, on met le mangea. Alors, il faut mettre la petite chaperonne rouge. Qu'est-ce que ça? Donc, quelque part, le petit chaperon rouge, c'est masculin, bien sûr. Et la mangea nous dit, mais c'est féminin. Donc il y a quelque chose, on va dire, de bancal qui boite, d'incertain, dans le petit chaperon rouge. C'est à la fois du modeste paysan reculé, ce que vous voulez, mais aussi du super voyant, rouge, aristocratique, on va dire, de manière ou d'une autre. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on voit vraiment? C'est aussi du masculin et du féminin. Donc il y a comme une boiterie dans le petit chaperon rouge. C'est un personnage compliqué, qui semble, à l'intérieur d'elle-même, être clivé entre plusieurs plusieurs directions possibles. Hein, voilà. Et bien sûr, cette idée de plusieurs directions possibles, elle va se retrouver quelque part dans le fait qu'il va y avoir deux chemins, deux directions possibles, deux choses possibles. Mais il va y avoir, évidemment, toute une multiplication d'hésitations, d'incertitudes. Bon, si on regarde un petit peu le chaperon rouge, c'est un petit conte dans lequel il n'y a pas d'homme. Ou plutôt, s'il y a un homme, c'est le loup. Mais est-ce que c'est un homme, hein? Voilà, c'est le loup. Mais à la fin, on précise que tout de même, peut-être, on pourrait l'identifier à cela. Donc, il y a une maman, donc supposons qu'elle ait 30 ans, peu importe, hein, voilà. Il y a une petite fille, qu'on appelle le petit chaperon rouge, supposons qu'elle ait 10 ans, 8 ans, enfin, comme on veut, 6 ans, peu importe. Et puis, il y a une mère grand, supposons qu'au XVIIe siècle, elle ait 50, 60 ans. Donc, il y a trois âges de la vie. Ça, c'est clair. On veut dire trois âges de la vie d'une femme. Hein. Petite fille, plus âgée, mûre, bien sûr, mère, d'accord, et mère grand. Et on observe qu'aucune d'entre elles ne s'appelle Pierrette, Françoise ou Catherine, Margot, etc. Elles n'ont pas de prénom, elles n'ont pas de famille, elles n'ont pas de nom de famille. On ne sait pas dire où ça se passe. Est-ce que ça se passe à Rustique ou à Fougueux-Sébarineuf, où vous voulez, d'accord. On ne sait pas. Ça se passe quelque part, dans un village. Ces trois femmes sans nom sont liées par une hiérarchie d'âge, véritablement. La femme, la mère, n'a pas de mari. Le petit chaperon rouge n'a pas de frère, voilà, qui se balade, de copains, de petits amis, enfin ce que vous voulez. Et la mère grand, bon, je ne sais pas très bien, enfin le pépé, il est mort depuis longtemps, enfin voilà, il n'est pas là, hein, en tout cas, voilà. Donc on a femmes entre elles, avec un loup, qui se balade, hein, par là. Dans la version de Perrault, vous voyez, dans la version de frère Grimm, Grimm, visiblement, enfin les frères Grimm, ils disent, ça manque d'hommes cette histoire, et donc ils font dire les chasseurs. Et évidemment, bon, les mecs, ils arrivent, ils sauvent tout. Hein, pouf, on est sauvés. Hein, voilà. Donc voilà, les frères Grimm, évidemment, ne sont pas satisfaits à la fois de la mort du petit chaperon rouge, parce que c'est cruel de faire mourir l'enfant. Et quelque part, ils se disent, on ne peut pas dire à des enfants, c'est le contraire de ce que pense Bruno Bettelheim, on ne peut pas dire à des enfants l'horreur de la mort par un loup. Donc on doit trouver une solution heureuse. Donc ça, c'est leur premier truc moral. Mais il y a un autre aspect dans leur intervention. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'homme positif, des mecs, vraiment, avec des fusils, enfin, vraiment, moraux, enfin, rien, tout ce que vous voulez, dans cette histoire de femmes. Si on laisse les femmes entre elles, ça finit mal. Elles se font bouffer par le loup. Heureusement, les hommes arrivent, d'accord, on voit ça. Mais, dans le petit chaperon rouge de Perrault, il n'y a pas d'homme, donc il n'y a pas de mari, il n'y a pas de frère ou de petit copain ou ce que vous voulez dans ce genre, et il n'y a pas non plus de monsieur père grand, hein, quelque chose comme ça. Donc, il y a simplement une sorte d'instance qu'on peut dire masculine si on veut, mais c'est pas très satisfaisant. Le loup, bon, bien sûr, hein, il y a quelque chose d'un peu masculin, et Perrault le ramène de ce côté-là. Mais c'est pas tout à fait un homme comme les hommes. Voilà. Et puis, par ailleurs, il y a ce fait que le petit chaperon rouge, c'est une fille, mais c'est un porte-nom d'homme. Hein. Donc, on dirait que le masculin est déployé en deux instances. Hein. D'un côté, une instance animale, le loup, et de l'autre côté, une instance grammaticale, qui est le chaperon, hein, voilà, véritablement. Et donc, on va dire, les hommes sont tantôt la grammaire, pas la grand-mère, la grammaire, d'accord, et, ou la syntaxe, si on veut, et puis l'animalité, quelque part. Et vous savez, bon, c'est une des grandes questions de la virilité, c'est peut-être pas facile d'être un homme, parce qu'on entend entre l'animal loup et puis peut-être la fonction grammaticale, et vous voyez tout ce débat récemment, hein, sur le genre, hein, voilà, où l'Académie française, les successeurs de Perrault interviennent pour rappeler à la loi française grammaticale, c'est-à-dire que le masculin prime sur le féminin. Mais, évidemment, le conte de Perrault, très ancien, évidemment, pose ces questions du masculin et du féminin dans le genre. Puisqu'effectivement, le petit chaperon rouge est une fille qui est un masculin. Donc, elle prime en tant qu'elle est masculine. Et donc, alors, voilà, il y a un problème. Où sont les mecs? Dans la grammaire et dans le loup, peut-être. Hein, voilà le point. Donc, c'est une espèce de machine un petit peu étrange, voilà, que nous propose cela. Je lis quelques phrases du conte qui n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment de la littérature. Alors, je prends le début. Il était une fois, donc ça commence comme beaucoup de contes de Perrault, pas tous les contes, ça va avec temps, mais c'est devenu comme une sorte de manière, hein, des contes. Il était une fois, donc, hein, une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir, sa mère en était folle, et sa mère grand plus fort encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Donc, on a un temps, c'est pas lequel, il était une fois, très bien, une petite fille de village, pareil, on ne sait pas quel est ce village, mais simplement on a un sème qui nous apparaît une petite. Le mot petite va jouer sans arrêt dans le conte avec grand. Grand loup, mère grand, que tu as de grands bras, etc. Donc on a quelque chose qui est lancé, hein, un adjectif petit qui va résonner avec la multiplication de grands un peu partout. Imaginez que Perrault aurait pu appeler son conte le chaperon rouge, par exemple, hein, ou le jeune chaperon rouge, ou l'enfant chaperon rouge. Enfin, il y a plein de possibilités, bien sûr, hein, d'accord. Donc il a mis petit et il le met dès la première ligne parce que c'est comme une note qui va servir. Il va être réemployé plusieurs fois dans le texte, mais réemployé aussi en contraste avec grand. Ça sera une histoire de petit grand. Et c'est pas sans intérêt parce que Perrault est l'auteur du siècle de Louis le Grand. À ce moment-là, c'est pour ça hein, qu'il est connu, dans le débat considérable. Et évidemment, grand, ça veut dire au XVIIe siècle, puissant, royal, noble, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre-là. Hein, voilà. C'est pas simplement une valeur de taille, c'est aussi une valeur de noblesse. Hein, c'est très important. On vit dans le grand siècle. Hein, voilà, on fait de la grande musique, on fait de la grande littérature, tous ces adjectifs-là. Et donc, on est du côté du petit. Et quand on dit petit au XVIIe siècle, par rapport à grand, on est dans quelque chose qui s'appelle le burlesque. Vous savez, le burlesque, c'est quand on prend du grand et quand on tombe dans le petit. L'héroïque comique, c'est l'inverse. Quand on part du petit, quand on va dans le grand. C'est-à-dire, pas nécessairement la taille, mais la valeur, véritablement. Vous voyez, le burlesque, c'est... on parle des dieux et soudain on nous dit « les dieux font pipi ». Alors ça, c'est burlesque. L'héroïque comique, on prend un paysan et on nous dit « le paysan s'habillait comme un dieu ». Alors là, c'est héroïque comique. Hein, voilà. Donc on monte, on descend, voilà. Sans vouloir dire du mal des paysans, mais pour la littérature du XVIIe siècle, le paysan, c'est le bas, hein, c'est Sganarelle, etc. Et si Sganarelle essaie d'être le cimité Don Juan, eh bien, c'est comique, bien entendu. Mais si je parle en termes de paysan d'un type comme Don Juan, c'est aussi comique, c'est burlesque. Et donc, le conte va jouer sur ce petit grand qui va être aussi, comment dire, burlesque. Alors, c'est un point qu'on va essayer de montrer. Le conte est un conte comique. J'ai vu quand on lisait cela, plus directement que comique, c'est un conte qui nous fait rire, c'est ce qu'on appelle au XVIIe siècle un conte galant. Alors, galant, pour nous, le mot veut dire un homme galant, c'est-à-dire l'inverse de balance ton porte. Hein, voilà. Donc, un homme galant, c'est un homme serviable auprès des dames, etc., agréable, poli, courtois, etc. Voilà. Mais au XVIIe siècle, ce qu'on appelle littérature galante, c'est une littérature qui traite souvent des thèmes d'amour, mais avec une certaine distance, avec plaisir, amusement, avec sourire, avec gaieté. Voilà le terme qui est important, avec gaieté. Et donc, un universitaire qui s'appelle Alain Viala a composé un livre pour essayer de s'opposer à l'idée de France classique, c'est-à-dire la France du XVIIe siècle, il l'appelait la France galante, pour dire la France galante, voilà ce que c'est que ce temps-là, c'est-à-dire, en fait, ces gens ne savent pas qu'ils sont des classiques, ils se pensent comme des auteurs galants, La Fontaine, Perrault et bien d'autres, c'est-à-dire des auteurs qui jouent hein, considérablement, on rit avec les fables de La Fontaine, mais ce n'est pas un rire énorme, bien entendu, ce n'est pas non plus le rire de Rabelais ou de Victor Hugo, c'est un rire un petit peu léger, et on va le trouver tout le temps, et on le trouve tout de suite, parce que c'était la plus jolie qu'on ait pu voir, alors on est au petit, puis on monte maintenant. Sa mère en était folle, et sa mère grande plus folle encore. Alors, folle, elles sont toutes les deux folles, et avec tous les sens qu'elles en folle. Et bien sûr, elles aiment leur petite fille, bien entendu, mais elles sont dingues aussi. Enfin, voilà, c'est les deux à la fois. Et donc, on a un club de femmes qui sont, vous savez, femmes au bord de la crise de nerfs, enfin, ce film d'Almodovar, elles sont femmes plus ou moins folles, hein, voilà, elles sont un peu étranges. Et on va bien voir qu'elles sont un petit peu étranges. Parce que je pense qu'il y a dans la salle des dames qui ont eu des petites filles ou des filles, etc. Une petite fille qui envoie, une maman qui envoie sa petite fille dans la forêt, enfin traverser la forêt ou passer près de la forêt pour aller voir la grand-mère. Et alors qu'elle sait qu'il y a des loups, attention, c'est pas très sympathique. Enfin, d'une imprudence incroyable, véritablement. Hein, voilà, les mamans qui envoient leur petite fille au bout du village, de l'autre côté, en passant par la forêt pour aller voir la grand-mère, elles savent bien peut-être qu'il y a un loup et que donc elles vont se débarrasser peut-être d'un seul coup de leur petite fille et de leur grand-mère. Et quel est le problème pour les mamans parfois? Se débarrasser de la petite fille qui va devenir grande peut-être et leur montrer que peut-être c'est pas les plus jolies du monde puisque les petites filles vont devenir un peu grandes. Et les grand-mères sont embêtantes pour les mamans, bien entendu. Et donc, évidemment, on a une maman qui fait le ménage. Hein, voilà. Et donc, c'est un peu étrange ce conte. Hein, voilà. On rentre dans un conte d'une immoralité totale. Hein, il faut le dire. C'est pour ça qu'il est probable qu'il faut l'interdire hein, assez rapidement, voilà. Puisqu'à la fin, hein, vous avez remarqué, bon, il y a des affaires en ce moment de petites filles qui disparaissent, etc. En général, on montre les mamans qui sont malheureuses, voilà. Mais là, bon, la maman, à la fin, elle n'apparaît pas, hein, voilà. Elle vient pas porter des fleurs sur la tombe de la grand-mère, si on peut dire, ou sur la tombe qui est le ventre d'ailleurs du loup. Non, il n'y a pas de déclaration à la police. La maman, elle est disparue. Hein, voilà, poup, 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 c'est pas grave, voilà. Elle est allée trouver ses copains, on sait pas très bien. Hein, voilà. Donc c'est très très étrange ce conte, dans lequel on a cette mère et cette grand-mère qui sont tout à fait d'accord pour que la petite fille passe à travers les champs où il y a un loup. Et on sait bien qu'il y a un loup, il est là, c'est dangereux. Voilà, et bon, voilà, on va voir un peu la chose, c'est un peu étrange. Cette bonne femme lui fait faire un petit chaperon rouge qui lui est si brun que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Alors, d'un seul coup, donc, ce petit paysage qu'on a là devient partout. Il y a une sorte d'universel. Cette petite fille, cette petite histoire avec cette maman est en train de rentrer au niveau du mythe. Partout, on l'appelait le petit chaperon rouge. Ce n'est plus simplement à un endroit précis, à un moment précis, dans une famille précise, ça devient le petit chaperon rouge. Et donc, elle va être, effectivement, comme protégée par son chaperon, mais pas protégée par son chaperon, parce qu'elle va être montrée aussi par son chaperon. Alors, bien sûr, les amis que j'ai qui font de la corrida savent bien que... Moi, bon, je ne suis pas un amateur de corrida, mais je ne fais surtout pas de la corrida moi-même, ni comme taureau, ni comme toréador, mais savent très bien que les taureaux sont attirés par le rouge, bien entendu. Bon, mais les loups aussi, enfin, voilà, vous mettez un petit chaperon rouge devant un loup, bon, il a faim, hein, voilà, c'est évident. Donc, vous mettez un steak, voilà, donc, mettre un petit chaperon pour protéger le chaperon de la petite fille et le mettre en rouge, c'est la grand-mère qui dessine, c'est faire la même chose que les militaires qui, en 1914, ont envoyé se battre contre les Allemands, qui avaient des mitrailleuses, des soldats et des pantalons rouges. C'est-à-dire faire des cibles magnifiques. Donc, mesdames, si vous avez une petite fille et qu'il y a un loup autour de rustique, par exemple, ne la mettez pas en rouge, parce que, bon, c'est comme vous mettez des couleurs fluo, ils arrivent, hein, voilà, ils arrivent immédiatement, bien entendu. Donc, elle envoie dans la nature, avec l'accord de la bonne femme, la grand-mère, cet objet qui est un steak haché sur pâte qui va se balader dans la nature. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme ta mère se porte ta mère grand. » Donc, certains commentateurs disent « La maman pourrait y aller elle-même. » Hein, voilà. Alors, certaines des étudiants disent « Elle pourrait passer un coup de téléphone ou un texto. » Bon, non, pas au XVIIe siècle. Mais en tout cas, voilà. Elle délègue ce rôle dont on pourrait imaginer, mais ça se discute bien entendu, parce que là c'est compliqué. On pourrait imaginer que la maman aille elle-même voir sa mère et lui porter, voilà, elle lui envoie sa petite fille. Alors il y a deux interprétations. Il y en a une qui consiste à dire, elle envoie sa petite fille pour aller s'initier quelque part au monde de la mort, de la vieillesse. Et donc ce conte a cette dimension initiatique, la mère envoie la petite fille voir ce qui est très vieux, voilà. Et autre chose, bien entendu, elle envoie la petite fille voir la mère grand pour pas y aller elle-même. Enfin, voilà, tout simplement. Hein, voilà, parce que la maman n'a pas envie de voir sa mère, hein, tout simplement. Enfin, voilà, voilà. On a le paysage. Hein, voilà, un paysage. Et donc, bien entendu, alors, j'ouvre les champs d'interprétation, parce qu'il y en a 36 000, bien entendu. Hein. Sur chaque mot, il y a des directions diverses. Ici, on ne fait pas une psychanalyse en se disant, tiens, j'ai trouvé la solution. Hein, il y a juste plein de problèmes que pose ce conte, comme d'ailleurs beaucoup d'autres contes, hein, la Belle au bois dormant, etc. Puis on pose d'autres, bien sûr. Hein. Petit détail, dans la Belle au bois dormant, le prince charmant de Perrault ne pose pas un baiser sur la Belle au bois dormant. Hein, voilà. Il suffit qu'il arrive, et le charme s'interrompt, et contrairement à ce qui se passe chez Walt Disney, la Belle se réveille. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils bavardent pendant 4 heures. Hein. Ils ont plein de trucs à se dire. Hein, voilà, voilà. Et elle raconte ses rêves en particulier. Voilà. Et puis après, c'est un peu terrible parce que le prince charmant part, alors ça c'est pas aussi dans Walt Disney, part pataclop avec son cheval et il amène sa Belle dans son château, bien entendu. Dans son château, il y a un problème, c'est qu'il a sa maman. Et la maman du prince charmant est une ogresse. C'est embêtant quand vous êtes un prince charmant, que vous avez maman en ogresse. Alors donc, il va faire la guerre de temps en temps. Il a deux enfants avec la Belle au bois dormant. Et ses enfants s'appellent la Belle Aurore et le Petit Jour. Voilà. Et la maman du prince charmant n'a qu'une envie, c'est de bouffer les enfants. Voilà. Alors pendant que le prince charmant, pataclop, va faire la guerre, elle essaie de les attraper par tous les moyens. Bon, elle y arrive, elle n'y arrive pas. Enfin bon, on lui sert du cerf, je crois, un cœur de cerf. Et à la fin, elle réussit à les coincer, véritablement. Elle va les manger quand le prince charmant arrive. Et il précipite sa maman dans un trou plein de serpents, de vipères. Et donc, il se débarrasse en fait de sa maman. Ouf, on est sauvé. Là, il peut être un bon mari. Donc, le prince charmant est en gros chez Perrault, plus ou moins nul. Hein, voilà. Il ne peut pas faire autrement que de rentrer dans le truc, dans le château. Il ne fait rien, il bavarde. Après, il fait deux enfants, on ne sait pas très bien comment. Il se part, il se casse. Et sa maman veut bouffer les enfants. Et la fille aussi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est pas dans le conte évidemment, de Walt Disney. C'est dans le conte de Perrault. Le conte de Perrault est bien pire. Bien terrible, véritablement, par rapport au conte de Walt Disney. Hein, voilà, il est vraiment terrible, hein, le conte de l'Aube dormant. Et donc, c'est pareil avec le Petit Chaperon Rouge. On n'est pas du tout dans des versions romantiques, on va dire. La version de Disney est évidemment romantique pour tous ces contes-là, bien entendu. C'est des versions beaucoup plus dures, on va dire classiques, à un moment où, effectivement, dans le classicisme français et européen, on n'a pas peur d'appeler un chat et un loup, hein, véritablement. Et donc on l'envoie porter sa galette et ce petit peu de beurre. Vous imaginez les gloses infinies que les mythographes ont fait sur la galette et le petit pot de beurre. D'un côté, le mou, bien sûr, le lait, l'élevage, enfin, etc. L'autre côté, évidemment, le cuit, hein, le cru et le cuit. Et puis, bien sûr, l'agriculture au sens, non pas l'élevage, etc. Et donc, les Lévi-Strauss et autres ont commenté, bien sûr, et on se doute quelque part qu'on a beaucoup pensé que le petit chaperon rouge était ce qu'on appelle une belle de mai, c'est-à-dire une fée, hein, véritablement. Et donc, effectivement, elle porte effectivement un don, probablement ça vient de l'Antiquité ou des époques préhistoriques, elle porte un don double qui est à la fois la galette, donc on va dire le monde de l'agriculture, hein, voilà, et le monde de l'élevage, quelque part, Caïn et Abel, enfin toutes ces choses-là, hein, qui sont là depuis très longtemps, le cru et le cuit, et donc évidemment la galette et le petit pot de beurre, le beurre et la galette, le masculin et le féminin, enfin, hein, on peut développer tout ça. Donc, bien entendu, ces éléments-là sont lourds de matériaux imaginaires extrêmement forts. Hein, voilà. Elle n'apporte pas n'importe quoi. Elle n'apporte pas des cacahuètes ou n'importe quoi. C'est cela et cela. Et ces deux aspects sont laissés. On remarque que souvent, dans les versions qu'on apporte dans les dessins animés ou ailleurs, on supprime la galette et on maintient simplement le petit pot de beurre. Mais chez Perrault, qui a l'intelligence mythologique, il y a les deux éléments, hein, qui sont là. Et c'est très important. Alors, évidemment, ce petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. Donc, voyage. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Alors, dans toutes les versions probablement anciennes, qui sont recueillies dans le Nivernais, en Bourgogne ou ailleurs, ou dans le sud de la France, on ne trouve pas cet élément-là. Cet élément est très frappant. On a là un loup classique, va-t-on dire. C'est-à-dire un loup un peu malin, bourgeois. Bon, le bzou de tout à l'heure, lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est bouffer le petit chaperon rouge le plus vite possible. Coucher avec le petit chaperon rouge et bouffer le petit chaperon rouge. Enfin, les deux en même temps. Et les deux, bon, c'est une brute, hein, véritablement. Et il est tellement brut qu'à la fin, il se fait piquer le petit chaperon rouge par le petit chaperon rouge même. Or, ici, on a un loup très différent qui regarde le paysage, qui voit qu'il y a des bûcherons et qui calcule que ce n'est pas rentable pour lui de le manger, ce petit chaperon rouge, tout de suite. Donc, Perrault a le souci de rendre son conte vraisemblable. Alors voilà un mot très important. On est dans le conte, on a un loup qui parle, c'est pas très vraisemblable, mais pour Perrault, il faut que le loup soit, que l'histoire soit vraisemblable. Parce que c'est une idée importante dans l'histoire de la littérature. Pour nous, maintenant, effectivement, un roman, en général, on a envie qu'il soit crédible, vraisemblable, qu'on ne raconte pas absolument n'importe quoi. Bien sûr, si je me plonge dans Rabelais, si je me plonge dans les romans médiévaux, on raconte absolument n'importe quoi. Si je me plonge dans l'Odyssée, c'est vraiment n'importe quoi, les histoires de cyclopes et compagnie, bien sûr. C'est-à-dire, on n'est pas du côté du vraisemblable, il y a des lieux qui arrivent, etc. Ça ne gêne personne. On peut très bien admettre cette possibilité qu'on raconte des choses qui ne sont pas vraisemblables, mais qui agrandissent le réel, qui ont des valeurs symboliques et autres. Et dans l'espace du conte, on est bien dans un espace où, apparemment, on est un peu dans le n'importe quoi. Il y a des fées qui interviennent, hein, il y a des carrosses qui deviennent, des citrouilles qui deviennent des carrosses, etc. C'est l'aventure. Mais Perrault est un auteur classique, et donc, comme La Fontaine, comme surtout Madame la Savillette et autres, il croit effectivement qu'il faut montrer le réel le plus possible. Il faut, on va dire, on est dans la ligne de Descartes, il ne faut pas délirer. Il ne faut pas inventer des choses folles. Et donc, on voit bien que le petit chaperon rouge, il n'y a pas de fée. Il y a juste un élément extraordinaire, c'est que le loup parle. Ça, c'est un peu extraordinaire. Mais le fait qu'il y ait un loup dans les bois, c'est pas très extraordinaire. Qu'il y ait une maman, c'est rien d'extraordinaire. Qu'il y ait une grand-mère, qu'il y ait une toilette, etc. Mais surtout, le loup, il faut absolument qu'il calcule. Et donc, c'est un loup prudent, hein, véritablement. Voilà, il fait son petit calcul. Il est comme n'importe qui. Voilà, donc, il voit, il ne prend pas de risques. Il est, on va dire, bourgeois. Alors, bourgeois est un mot du XVIIe siècle très important. Un des amis ennemis de Perrault s'appelle le Furtière, qui compose un livre qui s'appelle Le roman bourgeois, qui lance ce mot bourgeois dans l'essence moderne qu'on a. Un bourgeois, c'est un type qui travaille, qui calcule et qui est prudent. Et donc, au lieu d'être un aventurier, il ne prend pas de risque, ou un minimum de risque. Voilà ce loup. Et donc, voilà, il invente une stratégie. Il lui demanda où elle allait. Le pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » Deuxième élément de vraisemblable. Normalement, un enfant a peur d'un loup. Normalement, une maman prévient effectivement l'enfant que le loup est dangereux. C'est aussi raconté dans les fables de La Fontaine. Or là, effectivement, on précise la raison pour laquelle le petit chaperon rouge n'a pas peur du loup. Elle ne sait pas. Et donc, pas derrière, il y a une idée, on va dire, moderne. Grâce à l'éducation, on peut s'améliorer et éviter les dangers. Idée absolument moderne. Idée toujours celle de l'éducation nationale. Si la maman avait envoyé le petit chaperon rouge à l'école, et qu'elle ait eu un bon instituteur, mais l'éducation nationale a toujours été mauvaise, on le sait bien. Voilà. Eh bien, elle aurait appris qu'effectivement, un loup est dangereux. Or, elle ne l'a pas appris. Est-ce que c'est la faute à la maman? Est-ce que c'est la faute à l'instituteur? Mais on peut raconter une autre histoire. Si le petit chaperon rouge avait été informé, avait eu un bouquin sur les loups, avait vu un film sur les loups, n'importe quoi, un instituteur qui lui parle du loup, elle n'aurait pas eu peur. Elle aurait eu peur, plutôt. Elle aurait évité la chose, elle aurait évité. Et donc, en effet, le conte est en train de nous raconter une histoire. Donc, on a un loup qui n'est pas un fou, qui est un calculateur bourgeois, qui a une stratégie bien, bien efficace, évidemment, et un petit chaperon rouge qui est juste victime parce qu'elle est ignorante. Et si elle est ignorante, c'est parce qu'on n'a pas appris les choses, véritablement. Et si on avait appris les choses, en gros, si sa maman avait fait le boulot, on aurait peut-être eu une autre histoire. Alors, on voit les intentions de Perrault qui sont assez complexes. Il s'agit de raconter ce conte très ancien, mais en même temps de laisser passer l'idée que peut-être le petit chaperon rouge eût pu être sauvé si on l'eût éduqué, véritablement. Et donc ça, c'est une idée typiquement moderne, hein, voilà, que la République, 4e, 3e, etc., a continué à appliquer, mais enfin la monarchie, etc. Et donc c'est au cœur du petit chaperon rouge. Alors vous voyez, ces textes anciens, et ce n'est pas un conte de n'importe quelle époque. C'est un conte du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle, au moment où Fénelon, par exemple, développe des traités sur l'éducation des filles. C'est une grande question du XVIIe siècle qui va se développer au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il faut éduquer les filles? Ben oui. Si on éduque, enfin, pour Fénelon, pour Perrault. Si on éduque les filles, eh bien, on va éviter qu'elles se fassent manger par les loups. Alors, à la fois, le loup, bon, c'est le mec qui veut les draguer, etc. Mais c'est aussi, bon, la connaissance de la vie, hein, d'une manière générale. Et donc, on a un conte politique, hein, de ce point de vue-là, et pas du tout un conte antique qui dit il faut laisser les filles dans l'ignorance, mais au contraire quelque chose qui se laisse entendre, et donc ça aboutit à la tragédie. On va dire, on a pu lire ce conte comme étant évidemment voilà ce qui se passe quand les filles ne sont pas éduquées. C'est aussi un thème qu'on trouve volontiers chez La Fontaine et chez bien d'autres. Et donc là on est à la fin du XVIIe siècle, c'est pas un thème qui aurait été chez un auteur du Moyen-Âge, hein, le moins du monde, c'est une autre histoire. Mais c'est pas un thème du tout qui apparaît dans la version nivernaise, la version, on va dire, paysanne, plus récente et sans doute à bien des aspects plus ancienne. Eh bien, je continue un petit peu. Eh bien, voilà, ce loup, d'accord. Oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Le moulin a son importance. Objet de travail, mais vous savez, le moulin, c'est une invention moderne du Moyen-Âge. Les gens du XVIIe siècle savent très bien que c'est une invention moderne, c'est-à-dire que Cicéron n'a jamais vu le moulin au sens, hein, nous les connaissons véritablement nous-mêmes. Donc, bien sûr, là, il y a quelque chose qui est nouveau. Hein, et donc, ce village n'est pas n'importe quoi. C'est un village avec moulin, équipement, etc. Et c'est aussi un élément de décor réaliste. Alors, c'est le début du réalisme en littérature. Hein. Balzac nous dirait, c'est un moulin qui mesure telle hauteur, qui appartient à tel monsieur, etc. On aurait des détails. Là, on est quand même au XVIIe siècle. Eh bien, dit le loup, je voulais aller voir aussi. Je m'en vais par ce chemin ici et par ce chemin-là. Et nous verrons qui plus tôt il sera. Donc, on a bien les deux chemins. Mais là où dans le conte nivernais, on a deux noms, le chemin des aiguilles et le chemin des épingles, dont personne ne sait très bien ce que ça veut dire. Alors, il y a plein d'hypothèses. Hein. Bon, il y a ceux qui disent que les épingles ont un rapport avec... les aiguilles ont un rapport avec le travail et puis un certain mode de sexualité accompli, c'est-à-dire donc, les femmes. Donc l'épingle, c'est le sexe masculin. D'accord. Donc c'est la vie féminine, accomplie, avec le travail et la sexualité complète. Et les épingles, qui se renvoient un petit peu éventuellement sur elles-mêmes, ça serait plutôt l'adolescence, et ça serait quelque chose qui ne serait pas la sexualité accomplie. Et donc, le choix du petit chaperon rouge serait de rester, en gros, dans le flirt, dans les contes premiers, c'est-à-dire dans une sexualité d'avant la sexualité, et puis, au contraire, d'aller vers la sexualité des épingles, qui serait la sexualité complète, accomplie, bien sûr. Hein, voilà. Alors, c'est souvent lu comme ça. En fait, on n'en sait trop rien. Enfin, c'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'elle aurait le choix entre aller vers une direction qui serait rester dans l'adolescence, vous voyez, et une autre direction qui serait aller vers la femme. Et certains lisent le conte à ce moment-là comme un conte d'initiation sexuelle, le petit chaperon rouge choisissant une direction contre une autre. Ça se discute infiniment, ça n'a rien d'évident. Enfin, voilà. Mais enfin, bon, on peut se dire ça. En tout cas, on voit que Perrault ne s'intéresse pas à cette histoire auquel, probablement, qu'il ne comprend pas, qu'il ne trouve pas en valeur, il ne trouve pas poétique, il trouve certainement trop mécanique. Et en revanche, il va inventer l'histoire beaucoup plus drôle pour nous, de la bobinette et de la chevillette, hein, voilà, qui va arriver bientôt. Le loup se mit à courir de sa force, et donc on a ce petit épisode merveilleux du chaperon rouge, développé par Walt Disney, qui s'amuse à cueillir des noisettes, à courir après les papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Et voilà le petit chaperon rouge de nouveau occupé au petit. Et le petit chaperon rouge ramasse les petites fleurs. Le petit chaperon rouge est du côté du petit, bien entendu, et donc perd son temps, voilà, et dans la multiplicité, et on a des éléments réalistes. On avait les moulins, le moulin, on a les noisettes, on a les papillons, on a les petites fleurs qu'elle rencontre. Alors, ces mots-là sont des mots qui sont comiques du 7e siècle. C'est-à-dire, dans la littérature, on ne parle pas normalement des noisettes. On ne parle pas des papillons. Pour parler des papillons et des noisettes, il faut attendre, dans la littérature un petit peu sérieuse, le 19e siècle. Quand vous parlez de choses concrètes, avec des mots qui sont des mots de paysans, des mots normaux, noisette, c'est le mot technique. Papillon, c'est le mot technique, et c'est aussi le mot scientifique. Eh bien, vous n'êtes pas dans la grande littérature, parce que, imaginez, Phèdre de Racine en train de dire « Je vais manger des noisettes, après je parlerai. Je vais cueillir des papillons avec Arissi ou n'importe, etc. » Ces mots-là, on le sent aussitôt dans la grande littérature tragique, épique, lyrique du XVIIe siècle, encore du XVIIIe siècle. Ce sont des mots impossibles. Pour les trouver dans la littérature tranquillement, il faut Victor Hugo. Hein, pour que Victor Hugo et Balzac, hein, Victor Hugo. Donc, « noisette » est un mot technique, de paysans précis, de botanistes, etc. Et donc c'est un mot légèrement comique au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Si vous dites noisette, comme quand La Fontaine emploie les mots dans les fables, qui sont des mots techniques, précis, etc., c'est des mots qui font sourire. Alors, bon, noisette, quelque part, en effet, c'est un mot un petit peu amusant. On peut dire, voilà, par rapport au mot de l'amour, voilà, quand on dit onde, rose, lys, feuille, etc., tous ces mots-là ne sont pas des mots comiques, c'est des mots de la poésie. Mais les mots comme noisette, hein, mignon d'en avoir si la noisette qui ce matin avait des clauses, non, mignon d'en avoir si la rose, hein, il y a le roman de la noisette, non, le roman de la rose, bien entendu, etc. Enfin, voilà, hein, voilà. Afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose, mais pas papillon, enfin voilà, hein, voilà. On sent tout de suite que si on flanque un papillon ou une noisette dans un poème de Ronsard ou du Dubélé, on rigole, c'est pas l'endroit. En revanche, La Fontaine, Perrault, c'est possible, mais c'est particulier dans la littérature du XVIIe siècle, tout à fait particulier. On pourrait trouver ces mots-là, peut-être, hein, noisette apparaît peut-être dans un détail d'une comédie Molière, c'est possible, j'en sais rien, je crois pas, mais enfin, c'est pas impossible, mais dans une comédie, pas dans une épopée, pas dans une tragédie, et encore moins dans la poésie lyrique, encore moins, hein, voilà, bien sûr, pour que on mette un bouquet de loup vert et de bruyère en fleurs sur la tombe d'une jeune fille, il faut attendre Victor Hugo. Avant, c'est rigolo, hein, c'est ridicule. On met de la rose, on met du lys, enfin, etc., de la tulipe éventuellement. Alors, bien sûr, ce loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison de la mère grande, donc il est passé, il heurte, et donc, direct, théâtre, toc-toc, qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix. Et donc, là, ça joue effectivement, c'est votre fille, le petit chaperon rouge, masculin, le loup qui contrefait sa voix, on est dans le théâtre. Et donc, à l'intérieur de cette scène, enfin de cette histoire de roman, on a une scène de théâtre doublement. Doublement parce que, premièrement, on a des gens qui parlent, à ce qu'on appelle grammaticalement le discours direct, donc un effet de diversité, d'immédiateté, voilà. On entend le bruit, toc toc, hein, c'est direct, voilà. C'est direct, c'est, vous savez, le temps n'est pas perdu. Mais d'autre part, effectivement, c'est du théâtre, parce que le loup est en train de devenir comédien. Donc, il contrefait. Bon, alors, ça devient hypocrite. Non, on a un loup qui est meilleur, peut-être, enfin, qui est plus complexe que ce qu'on imaginait d'abord. Le bzou est une brute dans le conte du Nivernais qu'on a là. Là, on a un bzou, un loup, maintenant, qui était bourgeois, prudent. Hein, il a vu le paysage, il a calculé son affaire, enfin, voilà, il est très intelligent. Puis ensuite, ce loup devient un rusé personnage. Il contrefait sa voix avec beaucoup de soin. Et le verbe contrefaire est un mot extrêmement technique, voilà, et un mot à la fois du vocabulaire du théâtre et du vocabulaire de la morale. Maintenant, c'est devenu le mot de la contrefaçon, hein, en industrie, pareil, et on sait bien que c'est mal. Et donc, le loup est maintenant un comédien, et alors, on est en train d'assister à une comédie. Mais cette comédie est aussi une tragédie, puisque la grand-mère va y passer, puis ensuite le loup aussi. Donc, on a quelque chose qui échappe, disons, à la hiérarchie des genres. Alors vous savez qu'au XVIIe siècle, on nous dit il y a d'un côté la comédie, alors c'est rigolo, hein, voilà, c'est des gens tout à fait d'en bas, et d'un côté il y a la tragédie. La tragédie, c'est terrible, c'est des gens d'en haut. Donc évidemment, dans une comédie, on ne meurt pas, et dans une tragédie, on ne mange pas les noisettes, il n'y a pas un loup, etc. Hein, voilà, on est uniquement avec des gens d'en haut. Or ici, on a quelque chose qui est en train de se jouer, on a un loup terrible, on va avoir la mort, et puis en même temps, on a du contrefait, on a des noisettes, on est dans du tragicomique, alors on comprend pourquoi Victor Hugo va adorer ce genre de contes, parce que lui va dire que ces contes sont grotesques. C'est-à-dire, c'est le lieu du mélange des genres. On a quelque chose de terrible, d'affreux, bien entendu. La mort de la grand-mère est affreuse, la mort du chaperon rouge est affreuse, et pourtant c'est plutôt rigolo. Hein, voilà, c'est plutôt rigolo cette histoire-là, avec les bobinettes chez Rat et les chevillettes qui viennent là. Et donc, on a quelque chose qui est en révolte par rapport à ce qu'on appelle la hiérarchie des genres. Alors, pour nous, le moderne, c'est effectivement la riposte, le refus des genres, très largement. Le refus, d'ailleurs, je ne parle pas du... Enfin, encore que si, on peut en parler du genre masculin et féminin. Bon, au XVIIe siècle, ou avant, à l'époque classique, il y a des genres littéraires, artistiques, très caractérisés. Par exemple, quand on parle de Virgile, qui est un grand auteur de l'Antiquité, de l'époque d'Auguste, on parle de la roue de Virgile. Alors, qu'est-ce que c'est que la roue de Virgile? Il y a trois œuvres de Virgile qui sont restées, trois œuvres importantes, qui s'appellent l'Énéide, qui est une épopée, les Bucoliques, qui est un texte dans lequel Virgile fait apparaître des paysans qui parlent comme des amoureux. Ça donne l'astrée au XVIIe siècle. Et puis les Géorgiques, qui est un livre dans lequel Virgile, en vers, donne des conseils à des paysans pour être des paysans. Donc, comment on élève les bœufs, comment on met son tas de fumier, etc. Et donc, il y a trois styles. La route de Virgile, c'est les trois styles. Il y a un style haut pour l'épopée, il y a un style moyen pour les bucoliques, et il y a un style bas, pas vulgaire, pour les géorgiques. Très bien. Alors, ces trois styles, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire de l'épopée, c'est nécessairement le grand style, et c'est super. Si vous voulez faire de la poésie galante, amoureuse, avec des paysans, bergers, etc., vous prenez le style moyen, et c'est pas mal. C'est moyen. Et si vous voulez parler de fumier et compagnie, vous prenez un style plus bas, et dans la hiérarchie des genres, ça sera moins bien. Et donc, cette idée-là, elle est extrêmement forte, elle reste forte dans la France d'aujourd'hui, qui reste assez largement classique. Il y a des genres. Il y a le genre bas, il y a le genre haut, il y a la petite littérature, il y a la grande littérature, il y a la petite musique, il y a la grande musique, il y a la chanson à texte et la grande chanson. Et vous voyez bien comment, on va dire, je ne sais pas, Johnny Hallyday, c'est la chanson moyenne, Léo Ferré, c'est la grande chanson, et puis Pascal Lambert de Belgique, c'est la chanson en bas, enfin, peu importe. Voilà. Enfin, bon, Pascal Lambert, c'est un héros pour moi et quelques amis, voilà. Donc, il y a des mauvais chanteurs, il y a des moyens chanteurs et des très grands chanteurs. Et on aime bien, voilà. Et puis, celui qui est dans le comique, Louis de Funès, ne peut pas être dans le tragique, tel, etc. Et on aime bien, en France, cette idée de genre. Mais la modernité, elle aime bien le mélange aussi. Alors le mélange des peuples, le mélange des nations, le mélange des genres, le mélange des cuisines. Maintenant, on aime bien mélanger le chinois, l'arabe, etc., tout ce que l'on veut, la cuisine française, tout cela. Et aussi le mélange des œuvres. Par exemple, le roman est un genre moderne, c'est-à-dire un genre dans lequel on fait tout. On fait n'importe quoi dans les romans modernes. Vous mettez de la tragédie, de la comédie, du dialogue, des descriptions, des personnages d'en haut, des personnages d'en bas, vous mettez ce que vous voulez. Et Victor Hugo est celui qui, dans la littérature française, insiste en disant « La modernité, c'est le mélange. Dans mes pièces de théâtre, il y a des personnages d'en bas et des personnages d'en haut. Dans mes romans, on parle de cochons, on parle de choses sublimes. On mélange tout ça. Hein, voilà. J'ai disloqué ce grand nid d'Alexandrin. Je fis une tempête au fond de l'encrier, etc. On mélange tout. On mélange tout. Il est moderne. Comme origine pour lui, Perrault en particulier. Parce que Perrault, effectivement, opère cela. Perrault est celui, on le voit bien, qui, au moment où la grand-mère va mourir, tragédie, terrible, terrible histoire, avec un loup terrible, il nous fait apparaître, tire la chevillette et la bobinette chez Rat. Alors ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, bon, on sait simplement qu'une fois qu'on a entendu ça, on le retient par cœur. Que si on est enfant et qu'on en reçoit ça, pour la vie entière, on tirera la bobinette et la chevillette chez Rat. Et c'est comme ça. Donc, on a une histoire de forme au sens, dont on ne sait pas ce qu'elle veut dire précisément, et personne ne sait ce que ça veut dire précisément en demeurant, mais qu'on retient, c'est une chose, c'est des mots qui sont des choses, comme « vous êtes le phénix des hôtes de ces voies ». Personne, en général, quand on est plus petit à l'école, ne sait très bien ce que ça veut dire, mais ça fait rien, d'un seul coup, clac, c'est là. Mais il y a aussi des choses, du pain, du vin, du boursin. Une publicité parfaitement réussie, peu importe. Voilà. Il y a comme ça des blocs, comme ça, qui d'un seul coup sont là, qui sont nécessités, dont on sent qu'ils sont plus forts que ce qu'ils disent. Et bien sûr, c'est très ancien. Les Grecs connaissaient cela, etc. Les Indiens connaissent cela. Donc, des sortes de formes qui ont un sens extrêmement puissant, mais tellement puissant qu'on ne sait pas très bien. Alors évidemment, on a fait des recherches pour se demander que veut dire la bobinette, que veut dire la chevillette. Il y a 36 000 choses qui ont été évoquées. Bien sûr, je ne vais pas développer sans arrêt, parce que ça va dans tous les sens, théologiques, sexuels, pornographiques, si vous voulez, etc., politiques, etc. Évidemment, un des effets, c'est que ces mots riment ensemble. Ils sont ce qu'on appelle homéotélotes, c'est-à-dire qu'ils ont la même fin, bobinette, chevillette, et qu'il y a ce petit chéra, qui est un mot d'ancien français, c'est le verbe choir, mais qu'on ne prononce pas au XVIIe siècle. Personne ne dit que ça chère, hein, voilà, ça chéra, et on le dit plus avant. Et donc, évidemment, chevillette, chéra, chevillette, et puis ché, voilà, et puis chéra. Bon, il y a plein de sens hein, qui peuvent ça, voilà, entre la chair, chéra, arraché, etc., arraché et compagnie. Bon, on voit bien que là, la langue est en train de dire plus de choses que les mots isolés les uns des autres disent. Alors, ça, c'est le cas des grands poètes. Hein, par exemple, je prends un vers très célèbre que j'aime beaucoup d'Apollinaire, qui est « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». C'est d'une évidence de sens, et c'est d'une nullité absolue comme information. Hein, parce que, bon, voilà, si on connaît le pont Mirabeau, le fait que la Seine coule dessous, on s'en fout un peu. Enfin, voilà, on le sait, quoi. Hein, voilà, hein, sous le pont machin, l'eau de coule. Enfin, voilà. C'est pas une information du. Voilà. C'est nul, hein, complètement nul, quand même. Hein. Et pourtant, ce vers est génial. Probablement parce que c'est Mirabeau, parce qu'il y a l'ordre, parce que Mirabeau, beauté, etc. Parce que la Seine, c'est à la fois le fleuve, mais aussi la Seine, avec tous les sens qu'on peut donner au mot Seine, bien entendu. Et donc, on a un vers génial qui nous donne aucune information intéressante, on s'en fiche un peu, que la Seine coule pas sur mer, mais une fois qu'on l'a entendu, alors, et après il y a la suite, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, bien sûr. Mais le premier vers, simplement, est génial, non pas par le message d'un intérêt nul, hein, voilà. Comme information, sous le pont neuf à Toulouse coule la Garonne, d'accord, hein, voilà, bon. Oui, bon, ben d'accord, hein, oui, bon, ça va, on est content, mais information zéro, constat zéro, puissance poétique maximum, parce que c'est un déploiement infini du rutilement des mots, hein, voilà qui nous est proposé. Et avec la bobinette Chéra aussi, ce qui fait que, bon, évidemment, Perrault est un très grand poète, bien entendu, parce que, évidemment, il résiste à la psychanalyse, il résiste à la politique, il propose quelque chose qui est une invention dont on sent qu'elle est drôle, infiniment poétique et profonde, véritablement, et qui nous pénètre complètement à l'intérieur de nous-mêmes, sans qu'on sache jamais ce qu'elle veut dire. Et alors, de ce point de vue, la bête, elle insiste bien, c'est comme souvent nos rêves. Nos rêves, parfois on fait des rêves un peu frappants, et bon, on se les raconte le matin, on le raconte à nos amis, parfois à nos psychanalystes, parfois malheureusement, mais enfin, ça fait rien. On le raconte à quelqu'un, et ces rêves nous fascinent, nous intéressent, parce qu'on sent qu'ils sont très importants. En même temps, les interprétations qu'on en donne, elles sont, c'est pas ça. Voilà, c'est plus important que l'interprétation qu'on en donne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas donner des interprétations. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui arrive de l'inconscient ou de ce qu'on veut pour la langue, de la langue elle-même, qui nous parle de notre vie, de notre mort. Et on voit bien dans bobine, hein, voilà, bobine, bobin, enfin, etc., net, etc. Bon, beaucoup de choses qui sont là, hein, voilà, chevillette, chéra, on sent bien que les chevilles, c'est important dans la vie, qu'il y a le vieux, qu'il y a la cheville, qu'il y a le chevelu, etc. Bon, il y a toutes sortes de mots, hein, qui sont valises, etc., à l'intérieur de nous-mêmes. Mais, il faut, en gros, se mettre dans une position d'entente, d'écoute de cela. Et c'est génial. Parce que c'est précisément si on se met dans l'écoute, de tire la bobinette et la chevillette chéra sans vouloir exactement interpréter. Si on écoute la chose, que la porte s'ouvre. Voilà, la porte s'ouvre quand on dit sésame ouvre-toi. On ne sait pas ce que ça veut dire sésame ouvre-toi, c'est nul quoi. Sésame, pourquoi sésame? Pourquoi pas carotte, hein? Voilà. Sésame, voilà. Mais il faut effectivement se mettre dans l'écoute d'une parole qu'on ne comprend pas, mais qui nous accroche et nous émerveille, pour qu'effectivement la porte s'ouvre. Et la porte s'ouvre, ça ne veut pas dire nécessairement la vie, ça peut vouloir dire la mort. Parce qu'effectivement, une porte, vous savez, le Christ est la porte de vie, hein, bien sûr. Mais la porte nous ouvre vers l'extérieur, vers la rencontre, etc. Mais aussi, évidemment, la porte qui s'ouvre, c'est le loup qui peut entrer, hein, bien entendu. Voilà. Donc, les deux sont possibles. La porte, vous savez, en latin, c'est janua, hein, la porte, c'est le mois de janvier. Et donc, il y a une fonction double. Hein, la porte, le mois de janvier, ça a deux visages. Il y a un visage vers la vie, vers le printemps, et aussi vers la mort, bien entendu. Et là, bien entendu, la porte, c'est ce qui peut amener la beauté. mais ce qui peut amener le loup à la mort, bien entendu. Hein, voilà le double truc du conte. Tout le conte est sur ces effets de double, évidemment, de bobinette et de chevillette, qu'on ne comprend pas, mais qu'en même temps, on entend, en tout cas, on peut entendre comme très important. Et donc, un conte, c'est une histoire qu'on ne comprend pas, mais dont on sait qu'elle est importante. Quelque part, bon, c'est aussi la même chose avec les paraboles, avec la Bible, en général. Hein. Voilà, on ne comprend pas la Bible, mais on sait bien que c'est important, même d'ailleurs si on n'est pas chrétien, ou si on n'est pas juif, ni rien du tout. Mais on a envie de travailler dessus pour faire entendre, effectivement, cette multiplicité de choses qui se disent, qu'on ne comprend pas. Alors, bon, si on est chrétien, on va dire c'est Dieu qui a écrit le texte, voilà. Mais on pourrait le dire aussi avec le conte de Perrault, et donc là, on a plus de mal à dire que c'est Dieu qui l'a écrit. En tout cas, quelque chose de très puissant l'a écrit, qui passe Perrault lui-même, certainement, et qui vient de l'Antiquité, qui vient de la mer Grand et tout ça, et qu'il réussit à ne pas empêcher de parler. C'est la force d'un grand poète, hein, de ne pas empêcher de parler un conte ou un poème. Et voilà donc, effectivement, il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien. C'est pas grave, hein, voilà, ça va très vite, hein, voilà, il n'y a pas de détails. Vous imaginez le film gore, pourquoi aller. Il la dévora en moins de rien, bon, voilà, bon, voilà, oui, moins de rien. Alors c'est très drôle, le moins de rien, en moins de rien. Voilà, bon, vous imaginez la scène gore qu'on pourrait avoir, hein, voilà, la grand-mère qui crie, enfin, etc., les morceaux et tout ça, voilà. Et non, on nous supprime effectivement le petit chaperon rouge qui va, alors, il n'est même pas dans des bouteilles, dans des pots de cornichons, ce que vous voulez, ce qui est le cas dans le conte préalable. Non, tout ça est accéléré, hein, voilà, au moins de rien, hop, voilà, bon. Et il est pressé d'aller au lit, hein, voilà, pressé d'aller au lit, il n'y a aucune culpabilité, tout va très bien, voilà. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand. En attendant, le petit chaperon rouge, c'est un criminel parfait, hein, voilà, aucun problème, voilà, il attend, qui quelque temps après vint à la porte, toc toc, conique de répétition, bien sûr, toc toc toc, deux fois toc toc, voilà, qui est là, le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, peur d'abord, mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit. Donc là, le petit chaperon rouge n'avait pas peur du loup, en le voyant, elle n'avait pas peur, bon, même pas peur, hein, voilà, puisqu'elle n'est pas informée. Mais la voix du loup derrière la porte, ça lui fait peur. Alors, d'un côté, on pourrait dire, psychologiquement, c'est étrange. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, on s'est dit, le petit chaperon rouge est étranger à la peur, enfin, du loup. Mais, et après, elle a peur. Oui, c'est pas sûr que ce soit psychologiquement étrange. On peut très bien ne pas avoir peur de ce qu'on voit et qui est terrible. Mais comme on ne sait pas que c'est terrible, on n'a pas peur, en réalité. Et puis, peur par l'imagination. Parce qu'elle ne voit pas le loup dans ce moment-là, mais elle l'entend simplement. Et donc, l'imagination du petit chaperon rouge l'effraie davantage que la réalité de ce qu'elle voit. Et là, au lieu d'avoir une contradiction, on a une intuition psychologique extraordinaire de Perrault. On a moins peur de ce qu'on voit, même quand c'est un loup, surtout quand on sait quand on sait pas que c'est un loup dangereux, enfin, on ne sait pas du tout, que de ce qu'on peut imaginer. Et le petit chaperon rouge imagine, et là, elle a peur. Et donc, le loup a prévu le coup, et donc il contrefait sa voix, bien entendu, et lui, en assoucissant un peu sa voix, et voilà, un adoucisseur de voix tire la chevillette, la bouinette chéra, le petit chaperon rouge tire la chevillette, et la porte s'ouvrit. De nouveau, même chose. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, donc voilà, il est un peu prudent, donc il contrefait sa voix, il se cache un petit peu, il est prudent, il est calculateur, bourgeois, il se doute un petit peu que son histoire risque de ne pas marcher très bien. Bon, il y a une fable de La Fontaine qui raconte aussi l'histoire d'un loup qui se contrefait, et c'est pas facile quand vous êtes un loup dans les fables de La Fontaine de se contrefaire, d'accord? Parce que, bien sûr, fourbe, par quelque endroit, toujours se laisse prendre. C'est un loup qui veut se prendre pour un berger, donc il se déguise, il met un petit chapeau, il attire les moutons auprès de lui, voilà. Et puis, à un certain moment, il parle, et à ce moment-là, on comprend que c'est un loup, et bon, on lui balance, évidemment, les chiens contre lui, et il meurt, hein, voilà. Mais donc, ce loup qui a lu les fables de La Fontaine, très certainement, sait bien qu'effectivement, il faut se mettre sous le lit, il se protège. C'est pour mieux t'embrasser, mère Grand, etc., mère Grand. Et là, on sait bien que c'est à la fois une montée tragique, que les comédiens peuvent lire comme une montée tragique, et c'est en même temps une sorte de montée comique. Parce que la répétition joue sur les deux choses. On a une anaphore, bon, pourquoi, grand, 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 grand. Donc, on a une amplification, évidemment, qui est à la fois, selon la manière dont on le lit, drôle, ou tragique, elle peut effrayer l'enfant, ou au contraire, le faire rire, ou nous faire rire nous-mêmes, bien entendu. J'ai laissé de côté « Le petit chaperon rouge se déshabille », qui est une des phrases les plus magnifiques, évidemment, de ce brave Perrault, puisque donc le chaperon dit précisément « l'habiller », bien entendu. Se déshabiller, c'est le contenu de ce qu'on a vu dans l'histoire du bzou, bien entendu, mais comme presque effacé, Hein, il y a presque plus rien de la dimension sexuelle, elle est presque effacée. On est dans la poésie galante, il ne faut pas trop en montrer, parce qu'on ne sait jamais, les lecteurs des éditions Barbin pourraient s'énerver un petit peu, etc. Mais donc, du coup, ça gagne en force. Parce que ça, c'est l'art classique. Vous savez, Gide dit que l'art classique, c'est l'art de la litote. On ne va pas faire un striptease du Petit Chaperon Rouge, comme dans l'histoire du Bzou Nivernais. On a le minimum, mais ça suffit. Hein, ça suffit. Et ça suffit parce qu'entre Chaperon et déshabillé, il y a rouge. Et que rouge suffit à dire l'énormité de ce qui est en train de se passer. Le Petit Chaperon se déshabille. C'est un choc un peu facile. Hein, voilà, ça fait un oxymore. Le Chaperon, c'est le contraire de s'habiller. Le Petit Chaperon rouge se déshabille. Alors, on peut le dire autrement. Le Petit Chaperon rouge se déshabille. Et pas rouge du tout. Justement parce que le Petit Chaperon rouge n'est pas rouge. Hein, voilà. Je se déshabille. Hop, voilà, c'est pas grave. Hein, voilà, c'est terminé. Scène suivante, et voilà. Donc, on connaît cela. C'est pour mieux te manger, mon enfant, ma mère grand, que vous avez de grandes dents. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge et la mangea. Alors là, c'est extraordinaire, puisqu'on termine par mangea. Et vous voyez comment mangea est préparé par, c'est de la grande poésie, par d'une part méchant, mais beaucoup mieux, par grand, grand, mère grand, grand, etc. Que mangea, il y a tous ces mots-là, de en, qu'on entend depuis un moment. Vous avez une symphonie en, et c'est la lettre la plus ouverte, la voyez, la plus ouverte du français. Parce que si vous dites i, e, a, a, hein, et si vous appelez a, vous ouvrez grandement la bouche. Donc, mangea, hein, voilà, maximum, hein, voilà. Mangea, kiki, enfin voilà, le plus petit, d'accord, hein, on ferme, voilà. Et donc, si on appelle un chien un titi, on ferme un maximum la bouche, et donc ça va porter le plus loin possible. Et si on l'appelle tata, ça sera moins loin, hein, voilà. Parce qu'effectivement, on va ouvrir la bouche au maximum, mais ça va diffuser dans tous les sens. Et donc, mangea, donc, prolonge grand, 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 efface petit, fait entendre tous ces a, mais aussi fait entendre mangea. Hein, et ça renvoie au loup et l'agneau, d'accord, de La Fontaine, vous savez, où à la fin du loup et l'agneau de La Fontaine, le loup l'emporte, et là-dessus, le mange, l'emporte, et puis le mange, il se venge et le mange. Et on a remarqué depuis longtemps que le verbe mange, manger, tient l'ange, et c'est l'ange à l'envers, en quelque manière, hein, voilà. Et dans la fable de La Fontaine, ça joue évidemment au maximum là-dessus. Et donc, bien entendu, c'est une référence à La Fontaine, le grand ennemi, à ce moment-là, de Perrault. Pour des raisons d'académie française, etc. Voilà. Ils se sont traités de tout, hein, avec Furetière, La Fontaine et tout cela, avec beaucoup d'énergie. Et donc, c'est une sorte de réécriture du loup et l'agneau, à part que là, il s'agit non pas d'un agneau plus ou moins blanc, voilà, qui est pur, mais d'un chaperon rouge. Et vous vous souvenez que l'agneau buvait dans le courant du nom de pur. L'agneau était de la pureté évangélique, etc., etc. C'était très bien. Mais le petit chaperon rouge, c'est une histoire plus trouble. Parce qu'il est chaperon, il est rouge, il y a la fille, il y a la grand-mère, etc. Et là, en quelque façon, ce n'est plus la pureté contre l'impureté absolue, hein, du loup, il est méchant le loup, bien entendu, contre quelque chose qui serait absolument simple et transparent. Ce n'est pas le bon de blanc et pur avec le loup en face. C'est un chaperon rouge, c'est une structure très très compliquée. Alors là, on est vraiment à l'opposé du monde de La Fontaine. Les psychanalystes adorent ça. Bon, La Fontaine s'appelle La Fontaine, c'est l'eau, la pureté, la fontaine qui coule vers la suite, vers l'avenir, et Perrault, c'est la question des racines, de l'origine, c'est le père. Les pères chez Perrault sont toujours très mauvais, méchants, les mères sont plus ou moins ogresses, etc. Et vous remontez vers le père sans arrêt, qui est plus ou moins douteux chez Perrault, et la mère aussi d'ailleurs, c'est pas mieux, vous avez des ogres, voilà, l'origine, hein, l'origine est terrible chez Perrault. Et chez La Fontaine, l'origine n'est pas du tout terrible, et le monde cependant dans lequel nous sommes contient des gens terribles, des loups, et voilà, et on peut vivre, voilà. Et donc effectivement, Perrault c'est l'anti-La Fontaine, Perrault n'est pas du tout un épicurien, La Fontaine est un épicurien, La Fontaine, Perrault est obsédé par la question de l'origine, c'est-à-dire la question du péché. Il y a quelque part, à l'origine, quelque chose de terrible, qui est le péché. Alors le péché, bon, voilà, c'est le sexe, c'est le mal, c'est un tas de trucs de ce genre. C'est quelque part dans l'origine qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui est vraiment terrible. Et donc, quelque part, du côté de la mère, du côté du père, ils sont toujours en train de bouffer, de voir bouffer leurs enfants. Hein. Voilà ce qui est terrible. Et donc, quelque part, on tente de fuir, mais les parents nous envoient toujours dans la forêt. Dans la forêt, il y a un ogre, bien entendu. On a beau être un petit poussé, crac, toujours il y a l'ogre, toujours. Enfin voilà, c'est terrible. Hein, voilà. Les parents chez Perrault, c'est un peu dur. Hein, voilà. Les princes charmants font ce qu'ils peuvent, mais bon, ça suffit. Et donc arrive à la fin la moralité qui vient comme un contrepoint. Alors j'emploie ce mot contrepoint parce qu'on est avec Perrault dans un grand organateur de la. Bon, c'était un des ministres, si on peut dire, de la culture de l'époque. Hein, il s'occupait d'architecture, de peinture, de musique, enfin tout cela, bien entendu. Et donc, bien entendu, il connaît très bien cet art. qui consiste à introduire une chose et puis une variation. On a eu un conte terrible qui termine par « et la mangea ». Terrible et comique. On va mettre une moralité. Alors, si on est allé du côté du passé, du paysan, du terrible, mais aussi du drôle, on va aller maintenant d'un autre côté, qui est du côté du présent. Il était une fois. Maintenant, on voit. Maintenant, les gens de bonne compagnie, pas les paysans. On est maintenant à Versailles, on est avec La Bruyère, on est avec Louis XIV, on est avec Louvois et ces gens-là. On est avec les gens de... On voit que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles. Alors, jeunes filles à tous les sens, hein, qu'il a aujourd'hui encore. C'est déjà l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais voilà, les jeunes filles qui ne sont pas dans les fleurs. Belles, bien faites, gentilles. Parce qu'en effet, il y a des jeunes filles qui ne sont ni laides, ni belles, ni bien faites, ni gentilles. Mais on s'en fiche un peu, c'est pas grave. Hein, voilà. Font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et oui, bien sûr, c'est une... Voilà, tout simplement, voilà. Et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Ah, et oui, voilà, le loup mange. Et vous voyez, retrouver étrange mange ange qui est en train de se promener, qu'on nous fait sonner un peu partout, voilà. Je dis le loup, intervention du narrateur, on n'avait pas rencontré le personnage. Et donc, correction, bien entendu. Maintenant, traduction, le loup. Le loup était un... Car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Et donc, l'homme est un loup pour l'homme. On connaît cette phrase qu'on attribue à Hobbes, que La Fontaine connaît bien aussi, cette œuvre-là, bien entendu. Et donc, les hommes sont des loups, les hommes, l'espèce humaine, bien entendu. Mais il y a aussi les loups qui sont vraiment des loups. Il y a aussi des loups qui ne sont pas si loups que ça, chez La Fontaine. Un loup rempli d'humanité, c'est dans une fable de La Fontaine. Il y a des loups, parfois, qui se convertissent eux-mêmes. Et parfois, dans les vies de saints, il y a des loups qui deviennent des saints eux-mêmes, etc. Bon, donc, tous les loups ne sont pas de même sorte, on est dans la diversité. Mais, bien sûr, il y a des loups qui sont peut-être... il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux. Alors il y a d'un côté les jeunes femmes belles, bien faites et gentilles, hein, qui n'est pas du tout ridicule au XVIIe siècle. Et voici maintenant les loups sans bruit, sans fiel et sans courroux. Donc sans bruit, c'est-à-dire qui ne crient pas de tous les côtés, c'est pas des militaires brutaux, etc. Sans fiel, donc c'est les méchants qu'on peut imaginer, les trissotins et tout ce qu'on a. Et sans courroux, les maris furieux, très nombreux bien entendu. C'est les vieux maris, hein, les Arnolf, en tout genre, qu'on connaît bien. Ces maris qui, privés, bien sûr, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles. Donc, évidemment, ils sont très gentils, ils sont pleins de privauté, bien entendu. Ils suivent les jeunes demoiselles, les voilà, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles, près du lit. Donc, on va de plus en plus étroit. On n'est pas maintenant dans l'espace de la nature, du champ, du moulin, du village qu'on avait tout à l'heure. On est dans l'espace noble, aristocratique, au minimum bourgeois. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux. Alors le hélas, bien entendu, oui, bon, hélas, hein, c'est comme ça, voilà. Mais c'est aussi un sourire de vieux bonhomme qui a presque 80 années, bien entendu, qui regarde avec distance ce temps nostalgique où lui-même était peut-être un de ces loups, bien entendu, voilà. Et puis, bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un peu triste, enfin, voilà. Mais en même temps, en effet, il y a une autre dimension, c'est qu'effectivement, cette question de l'éducation des filles... Cette question, effectivement, du fait, bon, maintenant, de ces thèmes, maintenant, on va dire l'égalité homme-femme, mais évidemment, ce n'est pas un thème du 7e siècle, tout à fait, mais du fait qu'il y a une certaine promotion du statut de la femme du 17e siècle, et donc promotion en particulier dans le contexte amoureux. C'est ce qu'on appelle les précieux, les précieuses des salons de ce temps-là. Parce qu'en effet, qu'est-ce que c'était que les militaires du temps d'Henri IV, de Louis XIII ? C'était des soudards. Bon, quand on lit, je ne sais pas, Agrippa de Bigné, qui est un guerrier protestant, bon, il y va, hein, voilà, c'est-à-dire que quand il y a des femmes, on les culbute, on fait des gosses, hein, voilà, c'est terminé, voilà. C'est, ils sont tous comme ça, les catholiques comme les protestants, c'est des brutes. Voilà, c'est des brutes, ils font la guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Papillon de la Cerise, qui est le champion du monde du nombre de poèmes érotiques. Mais ça y va, hein, voilà. Alors c'est un guerrier, hein, c'est un moment il est catholique, c'est un moment, bon, c'est des brutes. Et en gros, les femmes, à partir des années 1630-40, dans les salons aristocratiques, ont un peu envie d'avoir des relations de notre ordre, voilà, avec leurs amoureux, leurs fils, évidemment, leurs frères et compagnie, et c'est l'invention de la préciosité, c'est-à-dire, on va essayer d'éduquer, au moins pendant l'hiver, où ils font pas trop la guerre, en évitant aussi qu'ils fassent trop de duels, ces hommes, pour qu'on puisse dialoguer avec eux, nous-mêmes, on est en train de s'éduquer de plus en plus, et effectivement, des femmes comme Madame de Sévigné ou bien d'autres, Madame de Fayette et bien d'autres, vont essayer de développer, effectivement, dans l'aristocratie et dans la haute bourgeoisie, une sorte de possibilité de relation plus ou moins égale entre les hommes et les femmes, qu'on voit par exemple dans certaines comédies Molière, qui d'un côté se moquent des précieuses, mais par exemple dans Le Misanthrope, hein, Célimène est une femme un peu pénible par certains côtés, mais elle est légale. En effet, le Philinte, d'Alceste et des autres. Elle parle aussi bien, elle est aussi intelligente, etc. C'est pareil dans les tragédies de Racine. Donc, une sorte de possibilité de dialogue, d'égalité. Et un grand religieux qui s'appelle Fénelon, et on va dire Fénelon, c'est l'ancêtre de Michel Rocard. C'est-à-dire, c'est la gauche française, mais Michel Rocard est un grand lecteur de Fénelon. Dans le catholicisme du XVIIe siècle, à la fin, il y a deux tendances fortes. Dans l'Église centrale, il y a Bossuet, qui est un conservateur, tout simplement, un homme de pouvoir. Et Fénelon, on va dire, c'est l'ancêtre, dans les aventures de Télémaque, d'une pensée de gauche, hein, en effet, très importante, une pensée, on va dire, libérale de gauche, tolérante, etc., dans lesquelles la gauche française s'est beaucoup reconnue au XIXe siècle. On a énormément lu les aventures de Télémaque. Et Fénelon met au centre de ses préoccupations l'éducation des filles. On le voit bien dans les aventures de Télémaque, dans son traité d'éducation des filles. Il n'est pas le seul, il y en a bien d'autres, bien entendu. Et les philosophes du XVIIIe siècle vont prolonger cette réflexion de Fénelon très largement, Voltaire, Condorcet, Condillac, Montesquieu, bien entendu, qui est un grand admirateur de Fénelon. Et donc, la question du conte, c'est aussi, effectivement, de prévenir, en effet, les filles. Effectivement, il faut qu'elles sachent des choses. Elles n'ont pas tort d'avoir peur du loup, de la voix du loup, de cet imaginaire-là. De prévenir les filles. Et donc, quelque part, il y a quelque chose dans le féminin, on le sent bien, qui est très trouble, hein, entre la mère, la grand-mère, la petite fille, on le sent bien. Mais peut-être, on peut sortir de ce trouble. Et on peut sortir de ce trouble en partie par la littérature, par la lecture, par les contes et par l'éducation. Voyez. Et donc, quelque part, ce conte est un conte progressiste, curieusement. Hein, curieusement, alors évidemment, avec de l'humour, de l'ironie, bien entendu. C'est pas un conte misogyne. C'est un conte qui nous dit il y a quelque chose, évidemment, de trouble dans les rapports mère-fille, grand-mère. Et on le sait bien, on le voit tous les jours. On pourrait lire aussi sur les rapports entre les hommes, bien entendu. Il y a quelque chose de trouble dans la nature, bien entendu. L'humanité n'est pas bonne, hein, essentiellement. Voilà. On est dans un monde où on est pécheur. On est convaincu de ça. Perrault est évidemment catholique. Il y a du mal, il y a des loups, il y a des désirs de mort entre nous, etc. Bon, tout ça, bien entendu. Mais, évidemment, la littérature nous permet à la fois d'en sourire. On peut rire, c'est un aspect très important, mais aussi peut-être de nous améliorer. Et en ce sens, c'est un cheminement vers la modernité. Et donc, vous voyez, l'itinéraire que fait faire la maman au petit chapeau en rouge, c'est un itinéraire régressif. On va de la maman vers la mort, vers le passé. On va du village, au bout du compte, vers l'autre village, mais sinon on passe vers la forêt. Voilà, on va faire quelque chose qui probablement est régressif. Et très bien, le conte nous dit, attention, il ne faut pas aller uniquement vers le passé, il ne faut pas aller vers l'espace du loup et de la grand-mère et de la mort, il faut peut-être aller, peut-être le petit chaperon, n'a pas tort, du côté des paquerettes, des papillons, enfin du moulin peut-être, hein, de quelque chose qui serait la littérature aussi, le conte, etc. Et donc vous voyez, c'est un conte très compliqué. Bon, évidemment, on ne l'a pas du tout traité. Hein. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur le petit chaperon rouge, sur l'histoire et compagnie. On n'est même pas à l'esquisse du début d'un commentaire sur le petit chaperon rouge. Mais bon, comme mon ami Jean-Pierre Nizet est là, et quand il fait un commentaire sur deux mots de la Bible, eh bien, bon, il sait bien à la fin d'une heure de conférence, ou de deux heures, ou de trois heures, qu'il a à peine abordé le début du premier mot de l'évangile de Jean, par exemple. Hein, voilà. Mais là, c'est pareil. Hein, c'est terrible. La littérature est interminable. C'est un mot de Beckett. Voilà, on arrive là-dessus. Voilà. Maintenant, c'est important.